Bonsoir. Je suis Dominique Parent, agente culturelle à la direction de la programmation culturelle, et c'est au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec que je vous souhaite la bienvenue à l'auditorium pour cette deuxième de trois conférences et tables rondes autour de la science du bien vieillir. La semaine dernière, nos invités ont partagé leurs expériences, leur désir de continuer à faire des projets, le conférencier et sa fierté d'entraîner des personnes âgées qui disent s'en porter mieux. Aujourd'hui, nous parlerons d'alimentation comme un des moyens les plus reconnus pour freiner le déclin lié à l'âge. J'invite maintenant notre animatrice, la journaliste et auteure Carole Vallière, à venir présenter nos invités, la chercheure et conférencière Guylaine Ferland, la nutritionniste Hélène Laurendeau et l'auteur Guy Fournier. Jeudi prochain, je vous invite à revenir. Ce sera au tour du docteur Régent Hébert, la comédienne Janine Suto et à l'animateur et communicateur Jacques Languérand de participer à la table ronde. Ardente vieillesse, les atouts des nouveaux aînés. Bonne soirée à tous et je vous encourage à enrichir notre soirée de vos expériences en participant à l'échange qui suivra. Il y a des micros de chaque côté de la salle. Je cède maintenant la parole à Mme Carole Vallière.
Bonjour, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes nombreux, plus nombreux que la semaine passée, puis j'ai su qu'il y avait des gens qui étaient là la semaine passée, et Guy Fournier, en coulisses, disait « s'ils reviennent la semaine prochaine, vous êtes un peu plus vieux ». C'est la thématique. J'aime ça, j'aimerais ça avoir l'humour qu'il a, mais on en profitera pendant qu'il sera là. Vous savez, mardi, c'était la Journée internationale sans diète. Alors, c'est une Madame Young en Angleterre qui a commencé ça en 92. Elle avait été anorexique, elle voyait des choses horribles. Bon, elle a dit, on fait une journée sans diète. Ma fille me demande, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je dis, les nutritionnistes pensent qu'on ne devrait pas s'interdire d'affaires. Tu sais, on devrait manger un peu de tout. Elle me dit, t'es drôle, toi. Toujours en train de dire, pas de gros trans, pas de sucre. Faites attention à si manger ça. Bien, là, je suis partie à rire, puis je me suis dit... C'est vrai qu'en alimentation, les messages sont difficiles à passer et l'interprétation est grande. Je me promenais l'autre fois, je suivais deux cols bleus. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ne vous sentez pas vexés. Ils ont toujours une petite côte à remonter. Je me promenais, puis c'était manifestement des cols bleus. Il y en a un qui parlait à l'autre de vitamines que sa femme l'obligeait à manger chaque matin. Je vous jure, l'autre répondait par des oméga-3. C'était deux costauds là, qui n'avaient pas 40 ans, je vous jure. Alors, je me suis dit, les connaissances en alimentation sont maintenant répandues, les médias en parlent, mais comment s'y retrouver? Que croire? Bien, vous avez de la chance ce soir parce que vous avez deux nutritionnistes qui vont pouvoir répondre à vos questions. On fait ça ici dans un esprit d'échange. Alors, on va discuter avec nos invités, mais après, vous êtes invités à participer à la discussion. Vous faites des commentaires, vous parlez de votre expérience et vous posez des questions. Si vous avez des questions précises, sans me raconter votre maladie, là, si vous avez des questions précises, non, mais c'est vrai, on a des questions, des fois, on se dit peut-être que ça n'intéresse pas les gens, mais ça finit toujours par intéresser tout le monde. Donc, après la discussion, je vous inviterai, comme disait Dominique, il y a deux micros de chaque côté. Alors, j'invite à venir nous rejoindre Mme Hélène Laurendeau, une nutritionniste que vous avez souvent vue à la télévision. Mme Laurendeau vous fera dos pendant quelque temps pour pouvoir, oui, on vous invite à vous asseoir là, pour pouvoir écouter la conférence de Guylaine Ferland. Et Guy Fournier, auteur connu de télévision et de livres de recettes, qui apporte son calepin parce qu'il va prendre des notes. Hein? Mme Ferland, bonsoir Mme Ferland. Donc, vous êtes docteur en nutrition. Vous êtes professeur titulaire à la faculté de nutrition qui est rattachée à la faculté de médecine, comme vous savez, à l'Université de Montréal. Et vous êtes chercheur à l'Institut de gériatrie, l'Institut universitaire de gériatrie. Et pendant que je suis là, permettez-moi de vous présenter le livre que Mme Ferland a écrit, qui vous intéresse certainement, qui s'appelle « Alimentation et vieillissement ». C'est publié aux presses de l'Université de Montréal, publié là. Et elle a écrit ça, vous m'avez dit, surtout pour vos étudiantes, mais nous pouvons décider, tous autant que nous sommes, d'être son étudiante. Et donc, le livre est disponible à la bibliothèque ici ou dans les librairies. Je laisse Mme Ferland, Mme Guylaine Ferland, qui va répondre à la question « Peut-on mieux manger pour mieux vieillir? » À vous la parole.
Merci beaucoup, Carole. Merci, Dominique Parent, de m'avoir invitée à faire partie de cette série. Merci à vous tous et toutes qui êtes ici ce soir par cette belle soirée de printemps. Alors, oui, on m'a demandé de faire un petit peu le point sur la question de l'alimentation, le vieillissement, etc. Je dois faire un aveu. Au départ, c'est qu'au terme des 20 minutes là qui me sont données pour vous parler, je pourrais pas vous dire qu'il existe une vitamine ou un aliment qui va régler tous vos problèmes et qui va nous permettre, parce que je suis tout à fait partie prenante dans ça là. De gommer au fond tous les problèmes qu'on peut éprouver éventuellement quand on arrive à un âge avancé. Par contre, je pense que ce qu'on peut tirer de la littérature actuelle, de la recherche, ce sont des patrons d'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a des aliments si on les consomme régulièrement, vont nous permettre ou vont nous réduire nos risques, si vous voulez, de développer certaines maladies qui sont associées au grand âge. On parle des maladies cardiovasculaires, on parle des cancers, on parle des pertes cognitives, problèmes de mémoire, ostéoporose. Alors, les dégénérescences maculaires aussi, on en parle beaucoup. Alors donc, ce sont des conditions, au fond, qui frappent, faut quand même reconnaître, les personnes, un plus grand nombre de personnes après l'âge de 70 ans. Alors, donc, on va essayer de voir un petit peu quels sont ces patrons alimentaires qu'on peut privilégier éventuellement. Et puis, on pourra parler de choses plus précises, si vous voulez, aussi. En fait, une chose que j'aimerais dire, parce que c'est vrai que souvent, on parle, le vieillissement, et puis il y a parfois des choses un petit peu négatives autour de ça. Une chose qu'il faut qu'on se rappelle, c'est qu'au fond, l'espérance de vie n'a jamais été aussi longue dans l'histoire de l'humanité, certainement au Canada. Par exemple, une femme qui a 65 ans aujourd'hui peut s'attendre de vivre 20 ans de plus. Un homme, un petit peu moins, 15 ans. Alors ça, c'est ce que les statistiques nous disent. Lorsqu'on regarde l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire par ici, sans incapacité, on parle d'être en mesure de rester chez soi, de faire soi-même son ménage, de faire son épicerie, de peut-être avoir un petit peu besoin d'aide pour le déneigement, surtout quand on a des hivers comme celui qu'on a eu, et faire le gazon, des choses comme ça. Mais essentiellement, on peut rester chez soi et sans aucune difficulté. Alors donc, cette espérance de vie, elle est énorme quand on pense à ça. 76 ans pour les hommes et 78 ans pour les femmes. Les femmes s'en tirent toujours un peu mieux. C'est vrai, même dans le règne animal. Alors, ma foi, je pense qu'il y a une sagesse là. Peut-être, c'est tout. Aussi, évidemment, la nutrition, on en parle beaucoup. Pourquoi on en parle beaucoup? Parce que quand on regarde là, j'ai mis ici les associations canadiennes, les logos des associations canadiennes de différentes maladies qui sont en fait les sources de décès. Alors, on parle des maladies du cœur, on parle diabète, on parle cancer, Alzheimer, ostéoporose, on n'en meurt pas. Mais en fait, et je vous invite à aller sur ces sites-là, et on regarde les principaux facteurs de risque, la nutrition se trouve toujours en tête de liste. C'est sûr, il y a d'autres, il y a peut-être des prédispositions génétiques. La semaine dernière, il y a une question qui était posée à ce sujet-là. Aujourd'hui, on pense qu'il y a peut-être 40% de notre devenir, si vous voulez, au grand âge, qui est lié à nos gènes, et 60%, le reste, est lié à l'environnement. Notre mode de vie, ce qu'on mange, l'exercice qu'on fait, Etc. Donc, mais c'est clair que la nutrition, et je sais pas que je prêche pour ma paroisse, mais la nutrition est vraiment un facteur très important. Et c'est peut-être aussi parce que c'est tous les jours qu'on fait des choix, et c'est trois fois par jour qu'on fait ça aussi. Donc, au fond, on a la possibilité aussi d'intervenir, et on va voir que c'est tout à fait possible de le faire. Une chose que j'aimerais, peut-être une subtilité là, que j'aimerais vous partager, c'est qu'on a parfois tendance, bien que beaucoup moins maintenant, à mettre toutes les personnes de, disons, 55, 60 ans et plus, et dire, bon, ben, c'est 60 ans ou 65 ans et plus. Il y a vraiment une distinction au plan physiologique, et c'est pour les personnes qui étaient là la semaine dernière, on avait Madame Françoise Fauché qui nous disait, jusqu'à l'âge de 75 ans, mémoriser des textes de pièces de théâtre, c'était vraiment pas un problème. C'est à partir de 75 ans que c'est devenu plus difficile. Il faut travailler plus fort. Et je trouvais ça intéressant parce qu'au fond, quand on regarde au plan physiologique, ce qui est peut-être mon vécu un peu plus quotidien, on se rend compte aussi que c'est à partir de 75 ans que les problèmes ont tendance à s'accentuer, que certaines maladies se révèlent davantage. Alors, il y a manifestement quelque chose après 75 ans, et même si, bon, il ne faut pas négliger ce qu'on mange et ce qu'on fait avant, c'est sûr qu'à partir de 75 ans, il y a des changements qui sont un petit peu plus marqués. Alors, qu'en est-il de la situation des personnes, bon, j'ai regroupé, c'est vraiment grossier ici, là, mais par faute de temps, disons, décortiquer ça un petit peu plus, parce qu'en groupant 50-74 ans, c'est quand même un peu grossier, mais parce qu'on sait que, bon, la cinquième décennie, quand on arrive à 50 ans, c'est le moment des pauses, la ménopause, c'est aussi l'andropause, et il y a des changements au niveau hormonal qui surviennent à ce moment-là et qui, en fait, ont un impact sur toute notre physiologie. C'est sûr, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais disons, grosso modo, on a tendance à ralentir. Le système commence à ralentir un petit peu. On fait moins de muscles, on fait moins d'os, et on a tendance à devenir un petit peu plus économe aussi. Quand on consomme des calories, on a tendance à les emmagasiner un peu plus. On devient plus efficace à ce niveau-là. Pas mal plus efficace. Mais regardons ce qui se passe au niveau de l'alimentation. Alors, je vous présente ici un graphique. J'ai limité les graphiques ce soir parce que... Mais ceci, je pense que ça illustre assez bien. Ce sont les résultats des apports énergétiques, donc des calories, des Québécois et Québécoises qui ont été colligés dans le cadre de l'enquête Santé Québec qui a été réalisée au début des années 1990. Alors, qu'est-ce qu'on remarque, en fait? C'est que vous avez les différentes tranches d'âge et ce qu'on observe, au fond, c'est une diminution des apports caloriques. Évidemment, on parle de gens différents ici, là, c'était transversal, mais néanmoins, ce qu'on observe, c'est une diminution des apports caloriques, autant pour les hommes que pour les femmes. Et j'ai pu regarder des dizaines et des dizaines de données d'enquête. Autre enquête américaine, des enquêtes européennes, même en Asie, et j'ai toujours vu ce patron-là. On voit une diminution des apports caloriques et de l'énergie au fil du temps. Alors, ça, évidemment, c'est jumelé aussi à une chose qui n'est pas nécessairement, là encore, on peut intervenir, mais cette diminution au niveau des apports s'accompagne d'une diminution de la dépense énergétique qui est très largement liée à une réduction de l'activité physique. Ça, c'est quelque chose qu'on observe. Alors, quand on regarde les données d'enquête populationnelle, c'est vraiment ça qu'on observe. Alors, Ça a des conséquences, évidemment, ceci, c'est qu'on a tendance, parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est il y a tendance à y avoir, malgré la diminution des apports, en fait, c'est que la dépense énergétique a tendance à être un peu plus grande que, disons, proportionnellement. Et ce qu'on observe, c'est un gain de poids, en fait. Et plus précisément, on observe, c'est au niveau de la taille que ça a tendance à se produire, surtout. C'est ce qu'on a. C'est sûr que, comme je disais, il y a les hormones aussi, les changements au niveau des hormones qui contribuent à ça aussi. Parce que quand on regarde les choix alimentaires, donc là, je vous présentais le graphique des apports énergétiques, mais lorsqu'on regarde les choix alimentaires, parce que avec Carole, on s'était dit, bon, moi, je vais profiter quand même de ce forum pour essayer de déboulonner, peut-être de défaire certains mythes. On dit toujours, bon, les personnes âgées s'alimentent pas bien, ici et ça. Est-ce que moi, l'enquête Santé Québec m'a révélé, c'est que lorsqu'on regarde au prorata des calories qui sont consommées, les aliments et les éléments nutritifs qui sont consommés par les personnes de 60-65 ans, ils s'alimentent mieux que les adultes plus jeunes. Alors, donc, les choix alimentaires, et ça, c'est une chose qui est tout à fait évidente aujourd'hui, les gens de 50 ans, 60 ans, sont très informés en matière de nutrition. Ils savent quoi manger et, en fait, peut-être contrairement aux adultes plus jeunes, très souvent, ils mettent les choses en application beaucoup plus. En fait, le problème, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une réduction des apports totaux. Donc, les gens consomment moins de tous les aliments. Et évidemment, lorsqu'on consomme une quantité limitée d'aliments, on augmente nos risques de ne pas satisfaire nos besoins nutritionnels, nos besoins en protéines, nos besoins en vitamines, en minéraux. Alors, donc ça, évidemment, ça peut devenir un petit peu problématique. Alors, c'est pour ça qu'au fond, on va viser de maintenir l'appétit. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on maintient l'appétit avec les changements hormonaux et tout ça, on va engraisser encore plus. En fait, l'idée, c'est de peut-être dépenser un petit peu plus d'énergie, de s'assurer que l'énergie qui rentre, que ça rentre et que ça sort. Donc, il y a une espèce de flux de l'énergie dans le corps pour vraiment maintenir un poids, au fond, qui va pas nous embêter. Parce que, bon, je vais pas... vous savez aussi bien que moi qu'un gain de poids, un surpoids, c'est mauvais, c'est un facteur de risque pour le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers. Il y a même des études toutes récentes qui démontrent qu'un excès de poids peut même nuire à la mémoire, peut même nuire aux fonctions cognitives. Et c'est sûr que si on a un surpoids important, ben ça use les articulations prématurément. Ça use les hanches, ça use les genoux. Alors, c'est sûr qu'avec l'espérance de vie qu'on a, il faut y penser aussi. C'est qu'on a davantage de temps aussi pour, développer ou faire en sorte que le gain de poids pourrait éventuellement agir. Alors, qu'est-ce qui arrive après 75 ans? Je vous disais qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à partir de 75 ans. C'est très intéressant, en fait, c'est que là, on commence à voir une perte de l'appétit qui est vraiment beaucoup plus marquée. En fait, il y a des changements au niveau du cerveau qui expliquent ça. Il y a tout le métabolisme des opiacés, etc. Je ne veux pas entrer là-dedans, là, mais il y a des changements au niveau du cerveau, dans l'hypothalamus, qui fait que les gens les personnes de 75 ans et plus ont moins d'appétit. Il y a une satiété précoce aussi qui s'installe. C'est qu'ils vont commencer à manger, mais ils vont ressentir ce sentiment de plénitude plus rapidement. Alors donc, ils vont arrêter de manger plus rapidement aussi. Et il y a eu des travaux très intéressants qui ont été réalisés à Boston il y a quelques années, où on privait au fond des jeunes adultes et des personnes de plus âgées de nourriture pendant une journée, et après on leur disait bon là vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Il y avait vraiment de très bonnes choses. Et en fait, les personnes plus âgées ne compensaient pas autant que les adultes plus jeunes. Donc il y avait pas cette et d'ailleurs dans d'autres travaux où la période de privation était plus longue et avait même entraîné une perte de poids, le poids n'était pas regagné. Or, le problème avec ça, c'est que quand on consomme moins d'aliments, alors essentiellement encore là au niveau des choix, il y a pas tant de changements que ça. Il y a peut-être des petits changements, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais essentiellement, c'est que là, on rapetisse encore plus. Et en fait, ce qu'on observe, c'est une perte de poids. À partir de 75 ans, 80 ans, on observe davantage de perte de poids. Moi, j'ai l'occasion à l'Institut de gériatrie de côtoyer des personnes, et dans le cadre de nos projets de recherche aussi, ben moi, je vous jure, je n'ai jamais croisé de centenaire obèse. Jamais. Et en fait, on commence à voir à partir de 75 ans une perte de poids. Les gens, les femmes et les hommes aussi. Hein. Alors, il y a une perte de poids qui survient. Et en fait, bon, vous me direz, jusque-là, si on avait quelques livres à perdre, c'est peut-être pas plus mal. Le problème, c'est que quand on perd du poids à cet âge-là, on perd aussi, on a tendance à perdre, c'est toujours le cas, vous me direz, quel que soit l'âge, quand on perd du poids, on perd aussi de la musculature, on perd de la masse musculaire, mais c'est particulièrement marqué chez les personnes plus âgées. Et en fait, ce que vous avez ici, ce sont deux coupes transversales de cuisses. Donc, vous avez à gauche, au milieu, c'est l'os, et en gris clair, vous avez le muscle, et en gris plus foncé, sur le pourtour, c'est de la graisse. Alors, vous avez là une photo d'une cuisse d'un jeune adulte actif, et à droite, vous avez une cuisse d'une personne âgée sédentaire. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Davantage de gras, beaucoup moins de muscles, et vous avez aussi même des infiltrations de gras dans le muscle. Alors ça, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le muscle est moins performant. À ce moment-là, il y en a moins. Alors, c'est sûr que c'est assorti d'une perte au niveau de la force musculaire, possiblement de la mobilité. Les muscles, avec l'hiver qu'on a, je m'excuse de revenir encore une fois, mais je veux dire, quand on a un pied là qui part sur une plaque de glace noire et qu'on perd l'équilibre, qu'est-ce qui fait qu'on reste, qu'on chute pas? Ben, c'est notre musculature qui nous permet de rester debout et qui nous permet d'éviter les chutes. Alors donc, la musculature, c'est très important et il faut la maintenir. Ça fait partie dans notre jargon là ce qu'on appelle la masse maigre. Alors, mais c'est une masse qui est métaboliquement active, qui consomme de l'énergie et qui contribue justement à ce flux d'énergie dans notre organisme qui est tout à fait utile. Bon, le fait aussi de perdre, si vous voulez, de l'envergure au plan corporel. Alors bon, ma mère me dit toujours, je suis pas mal plus petite que j'étais. C'est vrai qu'elle a perdu un petit peu au niveau de la taille, mais elle a aussi perdu un petit peu au niveau de la musculature. C'est sûr que c'est une personne qui maintenant est plus petite. Alors c'est sûr que dans la mesure où cette masse maigre est moins présente, on devient un petit peu plus vulnérable. Donc, je parlais des chutes tantôt, mais aussi, après 75 ans, on a tendance à être un petit peu plus sujet lorsqu'il y a le virus de la grippe et tout ça, lorsqu'il est présent, il peut avoir des conséquences un petit peu plus sérieuses. Alors, Mais tout ça, en fait, c'est un peu le portrait. Moi, ce que je viens de vous présenter, là, c'est ce que je lis à la journée longue dans la littérature scientifique. C'est ce qu'on observe dans le cadre de nos projets de recherche, quand on accueille nos participants. Mais, en fait, c'est que une bonne partie de ces changements, c'est sûr qu'on ne peut pas tout freiner, mais il y a quand même beaucoup de ces changements qui peuvent être atténués par la nutrition, mais par l'alimentation. Et en fait, une chose, je pense, dont il faut recommencer à parler, c'est... Et moi, je me sens tout à fait à l'aise de le faire. C'est évidemment, comme toujours, on a parlé d'une alimentation variée. Moi, je dis toujours, essayez qu'il y ait le plus de couleurs dans notre assiette. Notre amie Hélène, là, tantôt, va sûrement nous donner... Quelques idées là-dessus. Le plaisir aussi, de retrouver le plaisir et d'avoir du plaisir à manger. Et je dis toujours, non plus se stresser trop avec ça. Parce que je connais des personnes là qui, c'est quasiment avant de débuter le repas, là, qui analysent ça et au point de rendre ça, au fond, ça devient un stress. Et en fait, moi, je me dis toujours, il y aurait peut-être une étude à faire éventuellement sur l'effet nocif de trop s'énerver avec la nutrition. La convivialité, ça c'est bien important, en fait, et ça c'est important à tout âge. Il y a des travaux qui ont démontré que lorsqu'on est seul, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 80 ans, on mange moins, et quand on a de la compagnie, on mange davantage. C'est sûr que la compagnie doit être agréable. C'est sûr que c'est pas le moment de s'engueuler autour d'un repas. Ça risque de créer une indigestion. Mais en fait, si on est bien entouré, on est entouré de gens qu'on aime, agréables et tout, il y a un impact psychologique qu'on est maintenant en mesure de... En fait, qu'on a mesuré dans un de nos projets de recherche, si vous voulez, je pourrais vous en parler un peu plus tantôt. Mais on a démontré que l'humeur, en fait, le fait d'être joyeux versus le fait d'être soit anxieux, déprimé, qu'on avait... Et ça, c'était avec des gens qui étaient hospitalisés, là. Donc, ils n'étaient pas chez eux, ce n'était pas la nourriture qu'ils avaient préparée eux-mêmes. Mais néanmoins, il y a eu vraiment un impact tout à fait... direct. Alors, on va parler tantôt avec nos invités de comment on peut faire pour avoir de la compagnie. Il y a toutes sortes de choses auxquelles on pense pas toujours nécessairement, mais d'avoir de la compagnie, c'est une chose qui fait en sorte que c'est le repas est plus agréable. Bon. On a parlé d'exercice la semaine dernière. Louis disait combien l'exercice était bon, au fond, pour notre cerveau. C'est vrai, c'est bon pour notre cerveau. Et mais c'est aussi vrai pour à peu près tout le reste de notre corps. C'est vrai pour les muscles, c'est grâce à l'exercice ou en fait à l'activité. Parce qu'on ne parle pas ici nécessairement de faire des séances de 2 heures au Nautilus, là, bien que, les personnes qui aiment ça, ça va aussi. Mais on parle d'être actif, là. On parle de faire de la bicyclette, on parle de marcher, on parle d'aller à la piscine. À gauche, on a les poids et haltères, enfin des petites haltères. Ça, de plus en plus, on recommande aux personnes de faire des exercices avec des poids pour justement maintenir la musculature, s'assurer que cette musculature est maintenue. Parce qu'en fait, moi, je connais à l'époque où je faisais des études aux États-Unis, à Boston, il y avait une étude en cours avec des octogénaires, donc des nonagénaires, des gens qui avaient 90 ans et plus, au début de l'étude, marchaient avec des cannes, des marchettes. Et en fait, c'était un programme d'exercice de 12 semaines. Au terme de ce programme d'exercice, l'appétit était revenu. La consommation alimentaire avait augmenté de manière assez importante, significative à tout le moins. Et aussi au niveau de la masse musculaire, il y avait eu des gains aussi à ce niveau-là. Mais au fond, toute activité qui peut être faite, que ce soit une demi-heure de marche le matin, le midi ou le soir, tout ça va faire en sorte que va maintenir au fond la musculature et contribuer à ce maintien de la masse maigre. Bon, je ne pouvais pas évidemment faire une présentation sans parler de suppléments, parce qu'il y en a beaucoup question. À chaque semaine, on a l'impression qu'il y a un nouveau supplément. Et que avec toutes sortes de vertus, et que si on en consomme tant de comprimés par jour, bon, on va régler nos problèmes. En fait, j'ai une opinion par rapport aux suppléments. C'est que si on doit en consommer, c'est sûr qu'on devrait toujours privilégier les aliments. Toujours, toujours. Et en fait, le travail, il est peut-être davantage à ce niveau-là, en ce qui me concerne. Mais bon, il peut arriver que pour toutes sortes de raisons, l'appétit n'est pas là, et c'est clair qu'avec ce qu'on consomme, on n'est pas en mesure de satisfaire nos besoins. Alors, personnellement, j'ai tendance, et je ne suis pas la seule, là, en fait, on est plusieurs à penser ça, qu'on devrait, si on doit prendre un supplément, de plutôt privilégier un complexe, donc une multivitamine et minéraux, une par jour. C'est sûr que ça va combler la moitié des besoins, un tiers à la moitié des besoins en micronutriments, en tout cas pour certains, pour un bon nombre. Il faut, en ce qui me concerne, limiter les suppléments uniques. En fait, actuellement, le seul supplément qui est, dont on fait la promotion, Santé Canada, qui est quand même l'organe de promotion de la santé au pays, c'est la vitamine D. Donc, actuellement, lors de la dernière révision du guide alimentaire canadien, on a pensé bon et souhaitable de recommander aux personnes de prendre un supplément de vitamine D de 400 unités internationales par jour. Et pourquoi? En fait, parce que au Québec, si on habite au sud de Havre-Saint-Pierre, au Québec et en fait toute la largeur du Canada, c'est que entre les mois de novembre et février, on n'est pas en mesure de synthétiser de la vitamine D au niveau de notre peau. Parce que ça, la vitamine D, on la synthétise lorsqu'on s'expose au soleil. Normalement, trois expositions, 15 minutes, le visage, les mains, par semaine, ça nous permet de synthétiser, de produire la vitamine D dont on a besoin. Le problème, c'est ça, c'est qu'en raison de l'inclinaison de la Terre, au Canada, entre ces mois-là, on ne peut pas synthétiser la vitamine D. Et si on habite à Havre-Saint-Pierre et au nord, alors là, cette période-là est encore plus longue, on parle de septembre à mars. Donc, c'est sûr que même si la vitamine D, on l'emmagasine, parce que c'est une vitamine qui est stockée dans les graisses, alors on peut l'emmagasiner, il reste qu'on est à risque à ce moment-là, on pourrait s'exposer à des états d'insuffisance. J'aimerais vous mettre en garde contre des quantités excessives de suppléments, parce que depuis une vingtaine d'années, on a beaucoup parlé de suppléments. Il y a eu toutes sortes de doses, et encore maintenant, dans les magazines, dans la presse populaire, on fait encore beaucoup, beaucoup la promotion des suppléments. Aux États-Unis, c'est une business de l'ordre d'un milliard de dollars par année. Il y a des enjeux financiers énormes. Et en fait, de plus en plus, on se rend compte, les travaux de recherche nous indiquent au fond que ce ne sont pas des bonbons, ces histoires-là. Et que, dans le cas de... Alors, je vous ai mis ici, pour les personnes qui sont intéressées aux chiffres, et je pourrais éventuellement laisser cette information-là auprès de Mme Parent. Mais on sait, par exemple, que la vitamine D, c'est une vitamine qui, évidemment, aide à l'absorption du calcium, et que si on en consomme trop, on peut créer des dépôts de calcium dans des tissus où on n'en veut pas du tout, comme les poumons, comme les reins. Alors, il y a des quantités à ne pas dépasser. La vitamine E, je tenais à en parler parce qu'on en a fait énormément la promotion. C'est un antioxydant, c'est un des antioxydants naturels. Le problème, c'est qu'on a maintenant, on sait qu'en ce qui concerne les antioxydants, que ce soit vitamine E, la vitamine C, que autant lorsqu'elles sont consommées en petite quantité, elles sont de puissantes antioxydants, lorsqu'elles sont consommées en grande quantité, elles deviennent pro-oxydantes, c'est-à-dire qu'elles créent des dommages. Et c'est pour ça que maintenant, la vitamine E, moi je dis toujours aux gens, si vous voulez prendre un supplément, autant que possible, l'équivalent de 200 unités internationales par jour, pas plus que ça. Parce que en fait, je rapporte ici l'étude HOPE, qui est en fait une grande étude pan-canadienne et qui impliquait aussi d'autres pays, ont démontré que chez des personnes qui souffraient de diabète, de maladies cardiovasculaires, que une consommation prolongée de suppléments de vitamine E, il y avait davantage de décès parmi le groupe qui consommait des quantités de l'ordre de 400 unités internationales. On a aussi parlé de la vitamine E pour aider les gens éventuellement à ne pas développer la maladie d'Alzheimer. Oubliez ça. Hein. Je veux dire, on ne fait plus ça. Parlez à n'importe quel neurologue sérieux, il va vous dire que des histoires de 800 unités internationales, 1000 unités internationales, ils ne font plus ça, même chez des gens qui sont en début de maladie. Donc, la vitamine E, c'est bon, c'est une vitamine, mais la définition même d'une vitamine, c'est que ce sont des molécules qui sont actives et qui font leur travail lorsqu'elles sont consommées en petite quantité. La vitamine A, alors on en parle peut-être un petit peu moins, mais sachez que elle est là, on commence les choses commencent à changer un petit peu, mais il faut essayer de ne pas dépasser tous ces chiffres-là. Vous regardez l'étiquette là. Tantôt, Hélène va nous aider à regarder les étiquettes, mais si vous regardez votre bouteille de multi là, vous allez voir tous ces chiffres-là, il faut s'assurer que, autant que possible, si vous prenez plus d'un supplément par jour, que ça ne totalise pas plus que 10 000 unités internationales ou 3 000 microgrammes, parce que, en fait, des doses qui excèdent ça de vitamine E ont été associées à un plus haut taux de fracture. Alors, donc, par contre, lorsqu'on a affaire à un bébé, le bébé a besoin de vitamine A pour justement créer sa structure au niveau endothélial et tout ça. Mais encore là, si c'est consommé en quantité excessive, ça devient délétère. Le calcium aussi, il ne faut pas dépasser autant que possible 2500 mg par jour. Il y a quelques travaux qui doivent être confirmés, mais où des apports de l'ordre de 1500 mg par jour ont été associés à un plus grand risque de cancer de la prostate chez l'homme. Alors, donc, ça reste ça. Il y a seulement une étude là à ce jour. Alors, il y en a d'autres pour vérifier ça, mais encore là, simplement nous rappeler au fond qu'on ne peut pas excéder trop avec ces histoires-là. Le zinc, la même chose. On a souvent parlé du zinc comme étant un minéral très utile dans l'immunité pour refaire notre système immunitaire et tout ça. Encore là, en quantité de l'ordre de ce qui est recommandé, 15 mg, ça va autour de ça, là, j'oublie précisément, mais lorsque on tombe dans des quantités excessives, ça devient délétère. J'aimerais, en terminant, vous parler de deux grandes études auxquelles je suis associée et, en fait, simplement pour vous dire que tout ça, c'est passionnant et que ça nous occupe, en fait. Et on a eu la chance ces dernières années de recevoir des fonds importants, plusieurs millions de dollars, pour justement tenter de mieux comprendre le rôle de la nutrition dans le bien vieillir. On a entre autres une grande étude de cohorte qui implique les deux instituts de gériatrie au Québec, celle de Sherbrooke, celle de Montréal. On a 1800 personnes qu'on suit dans le temps, là, depuis 4 ans maintenant, et ça va se poursuivre pour justement essayer d'isoler. C'est la première étude au monde qui a été conçue, première étude de cohorte qui a été conçue autour cours de la nutrition. Parce que dans les études antérieures, c'était très souvent de manière un peu secondaire que l'alimentation, la nutrition était étudiée. Dans le cas de Nuages, c'est notre étude, on a vraiment mis la nutrition au cœur de cette étude-là. Et on a une sous-étude, en fait, dont j'ai le plaisir d'avoir la responsabilité, qui, toujours au sein de la cohorte de personnes, de participants de Nuages, où là, on va regarder de manière plus pointue ce qu'on va, le rôle, encore là, essayer de mieux caractériser le rôle de la nutrition dans le bien vieillir cognitif. Alors, donc, les fonctions cérébrales, la mémoire, etc., toutes les notions qui ont été évoquées la semaine dernière vont être étudiées dans le cadre de cette étude-là. Alors, je terminerai en vous disant, au fond, que le message, il est encore très simple, c'est que on devrait, en matière d'alimentation, je pense qu'il n'existe pas de mauvais aliments, il n'existe pas de choses nécessairement nocives, tout est dans la mesure. Donc, c'est tenter de jouir des aliments et si on compare à ce qui était disponible au début du siècle, maintenant, on a un choix extraordinaire. On peut se concocter des repas absolument merveilleux au quotidien. Alors, donc, jouir de tout ça, mais évidemment, toujours en sachant garder le sens de la mesure. Alors, je vous remercie.
Merci beaucoup. Madame Ferland, vous prenez votre place, Madame Ferland, et je vous invite à venir vous asseoir. J'espère que vous avez pris des notes. Hélène.
Tellement déprimante.
Madame Ferland m'a dit, quand je l'avais rencontrée avant, s'il y a des gens dans la salle qui veulent participer à des recherches, est-ce que c'est possible? Je vous demande de me redire que c'est possible. Et les gens, si ça vous intéresse, puis la semaine passée, il y a vraiment des gens, je pense, je suis partie avec une douzaine de noms pour Louis Bérard. Si ça vous intéresse de participer à ces recherches, vous allez nous dire?
Oui, absolument. Absolument. On va avoir une feuille là, et puis on est toujours à la recherche de participants, de gens qui sont intéressés à nos travaux. Alors, on vous invite. C'est grâce aux participants qu'on peut mener ces études-là.
Est-ce que je peux annoncer mon programme de recherche? Moi aussi, je fais un programme de recherche, mais c'est limité aux femmes de 30 ans et moins.
En as-tu dans la salle? Pas de chance, Guy, vous reviendrez. Alors, je vous les présente maintenant sérieusement, nos invités. Hélène Laurendeau consacre sa vie à la communication de masse et j'ai compris en lui parlant que c'est une pédagogue née. Elle est bien reconnue par son milieu. Elle a reçu le prix du mérite annuel de son association, l'Ordre des diététistes professionnels du Québec, l'année passée. Et l'année d'avant, la médaille d'honneur de la Faculté de médecine. Bravo, Hélène, c'est pas rien, être reconnue par la Faculté de médecine. Est-ce qu'on vous voit encore dans l'émission de Ricardo?
Oui.
Alors, toutes les semaines, vous pouvez la voir, compléter ce qu'un chef dit, parce que Guy va bien s'en rendre compte aujourd'hui. On a des idées quand on veut faire de l'alimentation, mais elles ne sont pas toujours raisonnables pour la santé. Je vais voir avec lui ce qu'il en pense. Et donc, moi, j'ai été surprise d'apprendre que Hélène avait une maîtrise en épidémiologie. Puis vous savez, l'épidémiologie, c'est la santé publique, hein? Et c'est là que j'ai compris son intérêt pour la communication de masse. Et donc, la santé, la nutrition, dans un point de vue collectif. Alors, elle va pouvoir nous donner des recommandations, des conseils. Elle est vraiment quelqu'un de pratique, qui a l'habitude de parler parler aux gens en général. Monsieur Fournier, lui, il parle toujours en particulier, peut-être en particulier pour lui. Vous le connaissez comme auteur de télévision, auteur de livres de recettes. J'ai apporté son dernier ici que vous pouvez emprunter à la bibliothèque. Ça s'appelle Citron. Et si vous cuisinez juste avec le citron jaune, il y a des bonnes recettes de citron vert là-dedans. C'est vraiment bon. Non, mais c'est vrai, le citron vert, moi, c'est une découverte que j'ai faite il y a quelques années. Il a gagné avec son livre, je ne savais pas ça, qu'un homme au fourneau, ça avait valu un prix, le prix Cuisine Canada, mesdames et messieurs. Donc, on est avec des gens couronnés, c'est pas mal. Hein? Et on va parler de nutrition, de leur expérience, de leur connaissance. Madame Ferland, vous êtes bien la bienvenue pour participer à cette discussion-là. Et avec vous, vous êtes les bienvenus pour passer vos commentaires et poser vos questions. La première question s'adresse à M. Fournier. En vieillissant, Guy, est-ce que vous avez changé votre alimentation? Avec les connaissances qui arrivent.
Pas vraiment. C'est sûr que plus tu fais la cuisine et plus il y a une possibilité de variété d'aliments, parce que je suis d'accord avec madame, c'est sûr qu'à 50 ans, on n'avait pas les mêmes possibilités d'approvisionnement qu'on a aujourd'hui. Donc ça a contribué un petit peu à modifier ma façon de cuisiner, donc ma façon de m'alimenter également, mais beaucoup aussi les voyages, parce que c'est évident que quand tu visites, que tu séjournes dans d'autres pays, c'est à peu près inévitable que ça ait une influence par la suite sur ta façon de t'alimenter, parce qu'évidemment, il y a quand même des différences assez marquées d'un pays à l'autre.
Et c'est l'Italie et le Japon qui sont en notre faveur.
Disons que moi, c'est peut-être ce qui m'a le plus influencé au niveau de l'alimentation, au niveau de la cuisine. C'est sûrement l'Italie dans l'ensemble. Surtout, ce qui est intéressant en Italie, c'est la variété des cuisines italiennes, parce qu'évidemment, elle diffère beaucoup d'une région à l'autre. Et la simplicité de la cuisine japonaise.
Dans le goût, hein? Parce que vous êtes un homme de goût et de saveur. C'est ça que vous aimez, c'est les saveurs, les goûts.
Oui, et puis je pense que ce qui est peut-être le plus important, là, bon, Madame Ferland a touché deux points. Moi, c'est évident que pour moi, l'alimentation, c'est d'abord une question de variété. Pour moi, c'est essentiel.
Non, je pense que vous avez dit
de plaisir. Pardon?
Je pensais que vous auriez dit de plaisir.
Non, ça vient en deuxième lieu, parce qu'à partir du moment où tu vas beaucoup dans la variété, forcément, tu as beaucoup de plaisir. En tout cas, c'est inévitable. Et ça s'applique pas juste à l'alimentation.
Hélène, c'est vrai que collectivement, parce que je vous ai présenté un peu comme ça, collectivement particulièrement, c'est vrai que collectivement, on a beaucoup changé notre alimentation. Et peut-être qu'en vieillissant, est-ce qu'on retourne à ce qu'on connaissait autrefois? Ma mère me dit tout le temps, moi, on n'avait pas ça quand j'étais petite. Puis il y a peut-être un danger de retourner aux aliments, parce que l'alimentation, c'est affectif souvent. Hein?
C'est très juste. Non seulement c'est affectif, mais c'est, mon Dieu, ça dépasse tout le contexte là, de cognitif, mais aussi d'expérience agréable ou pas. Puis je te répondrai, Carole, est-ce qu'en vieillissant, on retourne... C'est difficile de généraliser. J'ai de la difficulté à dire... parce que les enquêtes nous démontrent clairement qu'il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes.
Ah, tiens.
Les femmes sont, d'après une enquête de la santé publique ici à Montréal... je ne veux pas partir de débat là, ici non. Ce soir.
Mais voyons donc.
Mais en termes d'alimentation et de nutrition, les femmes d'aujourd'hui sont à peu près 10 ans en avant des hommes. Oui, en termes d'applicabilité des recommandations, de manger plus de poissons, de manger plus de fibres. Tu sais, la fameuse blague du pain brun, là, que quand la femme rentre dans la maison, le pain blanc sort, puis elle rentre le pain brun, etc.
Puis le gars sort. Et le gars
sort. Ça dépend. Alors, c'est difficile de généraliser. Chose certaine, il y a des gens pour qui manger, ce n'est pas un plaisir et ça ne le deviendra jamais. C'est
mais,
dommage.
Mais là-dessus, j'aimerais dire une chose, parce que ça, c'est une chose que j'ai notée depuis un certain temps. C'est que pendant des années, pour la cuisine et cuisiner, ça a été une job de femme. Femmes l'ont considéré comme une job, si bien que quand les enfants partent de la maison... sont tannés de faire la job. Alors, à partir de ça, je pense que ce qui est très important, en tout cas, moi, c'est la façon dont je vois les choses, c'est autant que possible cuisiner à deux, que les gars épais là, qui vont regarder la télévision puis regarder le journal, prendre deux bières pendant que la femme cuisine, c'est sûr que c'est plus agréable de cuisiner quand tu es deux, parce que on a un peu chacun ses particularités.
C'est drôle que ce soit vous qui disiez ça.
Et je pense que ça, c'est extrêmement important parce que ben, ça me désole assez quand j'en rencontre une femme, puis j'en rencontre beaucoup, là, une femme de 60-65 ans qui dit « Je suis tanné de faire la cuisine. » Comment tu peux être tanné de faire la cuisine si, à moins de considérer, à moins d'avoir été toujours laissé être la personne, une espèce de servante qui fait la cuisine pour toute la famille.
Dans l'obligation.
Puis, les gens se mettent à table quand tout est prêt, puis ils se quittent la table, puis laissent la vaisselle, puis le reste. Et ça, je trouve que il faut absolument que les hommes s'impliquent dans la cuisine. Pour moi, c'est extrêmement important pour que la cuisine, pour que cuisiner, ça ne soit pas un job.
Parce mais que vous n'êtes pas le gars, Guy Fournier, qui dit que c'est dans une maison, c'est vous qui cuisinez et qu'il n'y a pas une femme qui rentre là?
Non. Non, moi, ça
j'ai
fait...
J'ai toujours fait la cuisine. Je vous
non, mais ça fait un peu plus que 50 ans que je cuisine tous les jours. C'est sûr que c'est moi qui approvisionne la maison, si tu veux. Parce que forcément, il y a un avantage extraordinaire à être celui qui cuisine, parce qu'au fond, c'est toi qui décides ce que tu vas manger, finalement. Parce que quand tu as beau dire à ta femme tous les matins, as-tu le goût de manger telle chose? Parce que tu te fais toujours dire, ah ben fais ce que tu veux. Tu sais, un peu comme quand la femme demande à son mari avant qu'il parte, qu'est-ce que tu as le goût de manger aujourd'hui? Il va toujours répondre, ben fais ce que tu veux. Donc, tu as l'avantage quand tu cuisines de préparer le menu, de faire le menu. Mais pour moi, cuisiner, c'est beaucoup plus de plaisir si ta femme participe, même si c'est elle qui est un peu le helper. Tu as toujours dans un couple. Si tu cuisines à deux, généralement, c'est évident qu'il y en a un qui va prendre le contrôle, puis l'autre va être l'assistant, si tu veux.
Ouais. Hélène, oui, je voudrais rajouter, je suis tout à fait d'accord avec Guy, c'est-à-dire que pour moi, le plaisir de manger, ça commence bien avant le moment où on s'assoit à table. Ça commence avec, un petit journal qu'on a feuilleté, un magazine, on a vu une recette, hein, tu sais, ça nous tente d'essayer ça. C'est quand on discute de, bon, qu'est-ce qu'on mangerait ce soir? Le homard vient d'arriver au Québec, c'est extraordinaire. Alors, je me réjouis, moi, à savoir que peut-être que samedi soir, c'est ça que je vais manger. Et quand on va faire les courses, on peut le voir comme une corvée et on peut le voir comme un plaisir. C'est sûr qu'il n'y a rien de fun à aller acheter du papier de toilette puis d'aller acheter des boîtes de conserve, mais ça peut devenir un plaisir aussi que de faire un petit arrêt spécial chez le poissonnier parce qu'on veut aller chercher quelque chose ou d'aller au marché, là, les marchés publics qui ouvrent leurs portes, etc. Donc, pour moi, c'est au même... Quand on met la table, est-ce qu'on va manger sur le bord du comptoir ou est-ce qu'on va le mettre la table sur la table de la salle à manger? Est-ce qu'on fait une soirée télé là, parce qu'on regarde un film ou tout ça? Je dis pas qu'il faut manger devant la télé, c'est au contraire, mais ça
mais
peut varier, arriver. Là,
en
ou
fait,
c'est varié.
Varié.
Et en vieillissant, et Guylaine en fait état dans son livre, l'importance de varier les lieux où on mange, d'aller au restaurant du coin, prendre un petit café, et comment ça peut jouer sur la stimulation de l'appétit, sur les idées nouvelles que ça nous donne, parce qu'effectivement, qu'on peut devenir tanné à la longue de toujours répéter, quand on n'a pas beaucoup de compétences culinaires, quand cuisiner pour nous, c'est plus une source de stress qu'un plaisir, ben des fois, on est moins aventureux pour aller explorer des nouveaux aliments, des nouvelles saveurs. Donc, ça peut être des façons d'y arriver.
Guylaine, vous aviez aussi des trucs à donner aux gens?
Ben en fait, nous, c'est ça, c'est que c'est ce que M. Fournier dit, je l'ai entendu aussi souvent, hein, des femmes, surtout de la génération des femmes qui ont 75-80 ans, qui ont eu à cuisiner pour les enfants, pour le mari.
Ouais.
C'est sûr qu'elles sont souvent lasses de ça. Là. Ce qu'on dit, ben, écoutez, et aussi si elles vivent seules, c'est d'aller non seulement en fait de préparer les repas avec une amie, une voisine, mais d'aller faire le marché, de planifier le menu ensemble et d'aller au marché chercher ce qu'il faut. Et puis cuisiner ensemble.
Vous pensez que c'est possible de faire ça là? Vous habitez dans une résidence, disons là, pas malade là, vous êtes autonome, mais vous avez une résidence. Puis là-dedans, c'est peut-être pas vos amis intimes là, qu'il y a là, mais c'est des gens que vous voyez souvent dans l'ascenseur, en bas, vous allez jouer au bingo avec ces gens-là. Puis vous pensez qu'on devrait, quand on est une personne plus âgée, prendre l'initiative de dire « Pauline, viendrais-tu manger? On va aller faire l'épicerie? »
Non, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être à l'aise avec les gens. Hein. On ne va pas s'exposer nécessairement.
Non, mais il y a une notion là-dedans
ça
de se forcer
tout
un
ça,
petit
là.
Peu. Hein?
Pardon?
Il y a une notion là-dedans de se forcer un petit peu.
Peut-être, oui, d'être un petit peu proactif. Mm-hmm. Et, parce qu'on a peut-être tendance à... Bon, dans les résidences, c'est sûr qu'il y a souvent... Il y a des gens qui cuisinent. Il y a une salle à manger et il y a des gens qui cuisinent pour nous. Alors, c'est sûr que ça se prête peut-être un petit peu moins. Puis bon, souvent, les gens qui vont dans les résidences, c'est parce qu'on a peut-être perdu un petit peu d'autonomie aussi. Donc, moi, je le vois davantage pour des gens qui sont encore...
autonomes.
autonomes, qui sont encore à domicile, mais des femmes qui sont dans leur logis, qui vivent dans la communauté, vous en avez beaucoup, et en fait, d'avoir des... Mais c'est certain qu'il faut être à l'aise avec ça, là. On ne va pas s'imposer des choses qui sont un petit peu contre nature, mais des fois, on mentionne ça et on se dit, bon, écoutez, si vous pensez qu'avec une voisine, ça peut se faire, à ce moment-là, pourquoi pas?
Parce que dans le fond, il suffit de semer les idées. Hein?
Absolument. Moi, je vais tout à fait dans ton sens, dans le sens de peut-être des fois se forcer un petit peu. Je voudrais ajouter, moi, une expérience personnelle, parce que quand on a déménagé dans le quartier où on habite maintenant, bien sûr qu'on n'était pas intime avec les voisins. Et on a commencé, j'ai commencé à pratiquer avec ma voisine l'échangisme.
Hein? Intéressant.
Je savais que j'allais capter son attention. C'est-à-dire que sans l'inviter à manger, parce qu'on n'était pas assez intime pour ça, non, avec son mari, sa fille, etc., eux, ils étaient une petite famille de 3 personnes, nous, on est 4. Et puis, des fois, je ne sais pas si vous faites un pain aux bananes, une recette de muffin, en tout cas, t'en as 12, 18, puis t'es pris avec, puis ou alors t'en congèles, puis à un moment donné, après 2-3 jours, les gens sont tannés de dire, là, encore le mot de muffin, bon, on a mangé, ça fait 2 jours. Alors, j'allais lui emporter. Puis je disais, écoute, j'ai fait une recette, il m'en reste. Et puis, ensuite, elle était un peu mal à l'aise de me remettre mon assiette vide. Donc, elle cuisinait une sauce à spaghetti. Puis elle me disait, écoute, il m'en est resté, t'en voudrais-tu un peu? Et on a commencé à faire ça. Alors, elle, de son côté, la voisine de ce côté-là, mariée à un Québécoise marié à un Vietnamien, donc qui cuisine beaucoup asiatique, etc., qui m'a fait découvrir des trucs formidables. Et mon autre voisine de l'autre bord, libanaise, qui faisait pousser des feuilles de vigne qui envahissaient.
Donc, est-ce que tu habites?
Un quartier multiethnique. c'est le visage de Montréal.
Oui, oui, oui.
C'est le visage de Montréal.
Mais c'est la belle richesse.
Et donc, là, j'ai dit, mais tu as des feuilles de vigne. Et puis, elle pensait que j'allais chialer parce que c'était assez envahissant dans mon jardin. Mais j'ai dit, écoute, moi, je te laisse les faire pousser à une condition que tu me montres comment tu fais les feuilles de vigne. Et c'était sa mère, elle habitait avec sa mère, donc de 84 ans. J'ai dit, mais il faut vous montrer comment faire les feuilles de vigne. Toi, je sais que tu connais ça parce que cuisine la libanaise n'a plus de secret pour toi. Mais, et c'est comme ça que peut-être qu'on peut aussi commencer.
Ça m'a coûté une femme libanaise pour qu'elle ait plus de secret.
Guy, il connaît tellement
ça coûte
tout.
Moins cher, un livre de recettes.
Mais c'est moins le fun, quand même. Guy Fournier connaît tellement tout que pouvez-vous croire qu'il n'a jamais acheté de crème glacée de sa vie? Non. Qu'il a fait? Que lui, il fait tout dans sa cuisine, il fait son pain.
J'ai jamais, non, mais effectivement, il y a 51 ans, j'avais trouvé chez Eaton une machine à crème glacée Sibac qui coûtait 450 $. Je trouvais ça épouvantable, mais je l'ai acheté.
C'est du luxe.
Et cette crème glacée-là a fait des milliers de gallons de... Cette machine-là a fait des milliers de gallons de crème glacée. Et j'achète jamais de crème glacée parce que je trouve qu'elle n'est pas bonne. Que ça, c'est absolument
sans intérêt. Que la vôtre est meilleure?
Ah oui, oui. Ça, c'est indiscutablement. C'est indiscutablement de la même façon que j'ai ici, quand je suis à moins d'être à Paris, parce qu'à Paris, là, c'est un petit peu différent parce que les variétés de yogourt sont meilleures. Je n'ai jamais acheté de yogourt. Je fais mon yogourt depuis des années.
Mais là, vous avez
en fait, il y a peu de choses que je ne fais pas. Là, on fait le pain, etc. Ouais. Parce que il faut dire que moi... Écoute, pour moi, le plus grand plaisir dans la vie, c'est de cuisiner. Si les gens me demandent, ils me disent, quel est le meilleur restaurant? Je vais rarement au restaurant parce que, premièrement, je trouve que je cuisine mieux que la plupart des restaurants où je vais. Ça, c'est un premier point. Puis, deuxièmement, j'ai tellement de plaisir à cuisiner que je vois pas pourquoi je le laisserais au restaurateur. Je dis, moi, j'aime mieux le prendre, ce plaisir-là.
On va parler de variété, puis je m'adresse à vous trois, autant que dans la salle. C'est un grand mot que vous dites tous les trois, c'est important la variété. Quand c'est une obligation, puis ça revient 3 fois par jour, on tombe vite dans certaines routines, mais on n'est pas tous Guy Fournier dans la vie, là. Donc,
moi, j'accepte la routine parce que pour le petit déjeuner, parce que je pense que chacun à sa façon de prendre son petit déjeuner. Et c'est peut-être ce que j'haïs le plus quand j'ai des visiteurs à la maison qui passent la nuit, c'est préparer le petit déjeuner, parce que le petit déjeuner, il y a quelque chose de sacré. Chacun a ses idiosyncrasies pour le petit déjeuner. Donc, à partir de ça, j'haïs faire les petits déjeuners, parce que je sais que ça, tu peux pas imposer un menu pour le petit déjeuner, parce que chacun a sa façon de prendre le petit déjeuner. Et ça, moi, je respecte ça. Mais...
Donc,
moi, je refuse de croire que c'est compliquer la variété en cuisine.
Mais alors, on va parler aux nutritionnistes. Si vous, vous refusez ça, là, elles vont accepter. Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe toujours dans les mêmes sentiers? Chaque semaine, on achète du poulet, on a deux, trois manières de le faire, puis on le fait tout le temps pareil. On mange toujours du riz le mardi, des pâtes le jeudi. Qu'est-ce qu'on fait pour briser la routine? On achète le livre de Guy, puis on essaye des recettes au citron? Ma question, c'est pas facétieux. Dans un sens qu'on achète beaucoup de livres de recettes au Québec.
Est-ce qu'on les cuisine pratique? Peu. On achète beaucoup de livres, mais on cuisine peu.
Puis est-ce pas vrai, les nutritionnistes, là, c'est pas vrai qu'on mange de plus en plus des plats préparés?
Bien, moi, je vais vous juste donner l'exemple qui, pour moi, est classique, là. C'est qu'il y avait à Granby une poissonnerie qui s'appelait la poissonnerie Coé, qui était une excellente poissonnerie. Et maintenant, les trois comptoirs réfrigérés sont occupés par des plats préparés. Et il y a à peu près plus moyen de trouver le poisson que tu vas, toi, préparer. Ah ouais. Et ça s'est fait dans l'espace d'à peu près 10 ans. Ça s'est complètement transformé. Parce que vous allez chez IGA, vous allez partout. C'est de plus en plus, les rayons d'aliments préparés prennent de plus en plus de place.
Et quand on vit toute seule, c'est facile d'acheter un Michelinas puis de se le mettre dans le micro-ondes, puis c'est fini le repas, on passe à d'autres choses. Hein?
Eh mon Dieu, moi, j'ai la difficulté à appeler ça un repas. Je trouve
j'entends
ça triste.
J'entends du monde parler, si vous voulez intervenir, oui. Gênez-vous pas. Hein?
Oui, il y a des micros, Carole.
Mais si on revient sur ta question, Carole, moi, revenir, tu dis, on tombe facilement dans la même routine.
Fait, ça,
mais je vais te donner un exemple, moi, ce qui me stupéfait. T'sais, tu vas, je regarde un comptoir de poisson, par exemple, parce qu'à l'Île-des-Sœurs, chez IGA, il y a une assez bonne poissonnerie. Bien, je regarde ce que les gens achètent. Ils achètent toujours le même maudit saumon.
Bien, c'est pour ça que je pose
tu
la question.
Pas, où ils achètent toujours un filet de
puis moi, je tombe dans le
toujours
même
les deux,
hein,
trois mêmes
saumon,
poissons. Bien, comment tu veux faire de la variété toujours?
Bien, voilà.
Tu sais, les Portugais ont beau dire qu'ils ont 367 façons de préparer de la morue. M'a dit qu'il y en a pas mal qui se ressemblent d'une à l'autre. Là.
Et pourtant, on a des émissions de télé. Vous en avez fait 160, ça fait pas longtemps. C'est quoi le vrai problème en arrière de ça? C'est quoi?
L'imagination.
C'est l'accès de la facilité, l'attrait de la facilité. C'est-à-dire que moi, je suis tannée d'entendre des gens dire « j'ai pas le temps de manger, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps d'aller faire les courses, j'ai pas le temps... » Vous savez, le temps, là, c'est relatif. Comment ça se fait que ces gens-là ont le temps de regarder des heures et des heures de télévision par semaine? Donc, l'industrie alimentaire s'est métamorphosée au cours des dernières décennies en voulant nous proposer des solutions, repas, à des soi-disant vrais problèmes, et que moi, des fois, je considère que ce sont des faux problèmes.
Parce que
c'est
le
bon,
temps
ben,
qu'on
exactement.
Avait pas.
Alors, ouais. tous ces mythes-là, là, que mieux manger, ça coûte plus cher, que mieux manger, ça prend plus de temps, que. Et puis donc, on nous propose une foule de solutions. Tu parlais des repas préparés. Écoute, effectivement, que dans les aliments transformés, on a une panoplie. Et dans un supermarché de taille moyenne, savez-vous, il y a combien d'aliments différents, ce qu'on appelle dans le milieu les SKU, donc combien de produits différents dans un supermarché de taille moyenne? Là, je ne parle pas des maxi surfaces.
Un Provigo, disons.
Oui, moyen. Est-ce qu'il y en a qui veulent avancer un chiffre? Il y a combien de produits différents dans un supermarché? 1 000? 10 000?
Hein, plus? Plus que 10 000.
Exactement. À peu près 30-35 000 aliments différents dans un supermarché de taille moyenne. Alors, bien sûr que moi, souvent, je me fais poser la question, mais comment on fait pour s'y retrouver là-dedans? C'est de plus en plus compliqué faire l'épicerie. Bien, écoutez, si on va vers les aliments le moins transformés possible, si on fait le tour du supermarché puis on va là, dans les
fruits,
légumes, le comptoir de poisson, de viande, les œufs, les produits laitiers, ça va, là, c'est assez simple jusque-là. Ça se complique dans les congélateurs ou ça se complique dans les allées du milieu quand on va dans les fausses solutions repas. Là. Écoutez, le sachet de riz instantané, qu'on ouvre le petit sachet avec l'assaisonnement, puis on ajoute de l'eau, etc., c'est sûr que c'est prêt en 2 minutes.
Oui,
mais...
puis on disait que quand on a été obligé à cuisiner toute sa vie, puis qu'on est rendu à 70, puis qu'on n'a plus d'enfants dans les jambes, le petit sachet, il y a un petit côté sexy, là.
Pas pour moi.
Non, parce que vous n'êtes pas rendu là, mais...
Parce que moi, je considère, Carole, que tu peux très bien manger rapidement. C'est comme le truc, là, tu sais, livraison 30 minutes. Bien, en 30 minutes, là, tu peux te faire vraiment un bon repas. Tu peux te faire, ça peut être très simple. Ça peut être une omelette avec des champignons, un bon fromage. Ça peut être une tranche de pain avec de l'huile d'olive, vous frottez avec un peu d'ail. En vieillissant, on s'éloigne un peu du sujet du vieillissement parce qu'on arrive dans le pratico-pratique, mais ça touche tout le monde en même temps.
Les personnes vieilles et jeunes ont les mêmes problèmes.
Mais il y a une perte de goût, en tout cas.
Carole, je fais chaque soir, pas ce soir là, parce que je suis avec vous, mais je fais chaque soir un minimum 3 services pour le dîner le soir. Je fais minimum 3 services et je n'ai jamais mis plus qu'une heure. Jamais
mis. Quand vous êtes seul, est-ce que vous mangez?
La même chose, trois services, m'asseoir à table, j'ai des fleurs sur la table, seul ou avec d'autres, c'est la même façon.
Pour moi, l'heure pas de soir, 81 ans, il est pareil.
C'est hyper important.
Absolument.
Quand même.
Et puis, ça va être aussi beau là, si je suis tout seul que si j'ai 8 personnes à table. C'est la même présentation, pour moi, c'est bien important.
Parce que moi, quand je suis toute seule, je peux-tu vous dire une affaire?
Elle mange du beurre de pinotte.
Non, j'aime pas ça, mais le petit sachet serait peut-être tentant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle, qui ont des commentaires à passer?
J'ai cherché le micro sans fil, alors s'il y en a qui ne veulent pas...
Allez-y. Attends, donc, je vais répéter la question.
Je vais vous passer le micro, madame, comme ça tout le monde pourra vous entendre.
Ben oui, mais où je peux reprendre, moi, ce que vous dites. OK. Bon, c'est cool.
Il y a un point très important là, que vous, Mme Laurando a mentionné, c'est la perte du goût. Oui. Et ça, c'est plus...
Est-ce que vous l'avez, vous? Vous avez perdu?
Oui, un début, oui. Et c'est plus fréquent qu'on pense, hein?
Tout à fait. En vieillissant, donc, il y a deux sens, donc l'odorat et le goût. Et dans le goût, peut-être une des saveurs qui est plus difficile à détecter avec le vieillissement, c'est le salé. Et ensuite, c'est suivi des autres saveurs. Le sucré, c'est peut-être la dernière qui va partir. Oh oui. Mais on détecte moins le salé et l'acide. Et donc, il faut stimuler les papilles gustatives. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Et je vous ai fait une petite diapo. Si ça fonctionne.
Mais pendant que je cherche cette diapo, est-ce que vous rencontrez ça dans vos recherches, Mme Ferland? Des gens qui disent qu'ils ont moins d'appétit parce qu'ils n'ont pas de goût, ils perdent le goût, l'odorat.
Oui.
Parce que sentir en cuisine, c'est important.
Oui.
Souvent, les personnes vont penser que c'est le goût, mais très souvent, c'est l'olfaction qui est touchée. Et on pense que l'olfaction et la perte de la capacité de sentir est beaucoup plus répandue que la perte du goût comme telle. L'olfaction, on a besoin de notre nez pour apprécier les aliments. Parce qu'on a qu'à penser quand on a la grippe, par exemple, ou si on se bouche le nez. On a beaucoup plus de difficultés à distinguer là, ce qu'on appelle la flaveur. Là. Oui, vous avez raison, la perte du goût ou de la flaveur, ou en tout cas l'appréciation. Là, et c'est pour ça que souvent, on va recommander aux gens de rehausser avec les épices. Et puis, le sel...
Mais ça, madame, ça fait partie, à mon sens, je pense qu'un des grands problèmes de la cuisine au Québec, c'est l'assaisonnement. C'est pas moi, j'ai toujours trouvé qu'au Québec, en général, la nourriture est fade. Et le pire, c'est que... Tiens, je regarde ma belle-mère qui était dans une résidence. Tabarnouche, comment est-ce que tu fais pour manger? Là, ça goûte rien. Ils mettent pas de sel, ils mettent pas de poivre, ils mettent pas d'assaisonnement. À partir de ça, demande-toi pas pourquoi tu perds le goût. Ça n'a pas de goût au départ. Alors, à partir de ça... Peut-être aussi bête perdre le goût quand ça goûte rien.
Alors, vous dites qu'au Québec, on joue pas assez avec les épices et les herbes.
Pour moi, c'est la caractéristique de la cuisine au Québec. C'est une cuisine fade.
Ça l'est souvent. C'est-à-dire que pour plaire à la majorité, on n'ose pas trop mettre d'ail, pas trop mettre de ci.
Non, mais c'est quand on mange au restaurant. Mais chez soi, on peut bien s'ajouter le thym et le persil qu'on veut.
Écoute, moi, aller manger chez ma belle-mère, c'était un supplice parce que ça goûtait rien. Puis j'ai eu un paquet de belle-mère, oui, puis c'était toujours pareil. J'ai eu beau changer de belle-mère, la cuisine était toujours aussi fade.
Ben, chez nous, on mangeait bien, mais...
Donc, manger plus épicé, Hélène, ce serait une solution.
Oui, oui, c'est dans ma prochaine diapo. Est-ce que tu me permets juste de passer à travers celle-ci en premier? Donc, parce que j'y viens aux assaisonnements, entre autres l'ail, des trucs pour ceux qui ont de la difficulté à digérer. Mais donc, des trucs pour stimuler l'appétit, ça dépasse un peu le goût, mais ça aide certainement à stimuler la perte de goût, le cas échéant. Alors, des trucs pour stimuler l'appétit. Vous savez, il y a beaucoup de gens le matin, la première chose qu'ils font, Carole, c'est qu'ils se servent, ils se préparent un café. Moi, la première. Ou une tasse de thé. Quand l'appétit est en jeu, on se rend compte que ça gonfle l'estomac et ça donne une fausse impression d'être nourri, d'être réveillé. Pourquoi? Parce que quand on prend notre café le matin, on a la dose de caféine qui arrive, on a souvent un petit peu de lait, un petit peu de sucre, donc qui va nous donner un petit peu d'énergie. Et cette dose de caféine nous est un stimulant qui nous donne l'impression d'être nourri alors qu'on est seulement caféiné. Donc, un des trucs peut-être, c'est d'attendre, de prendre un déjeuner et de prendre le café peut-être en déjeunant ou après déjeuner, mais de ne pas commencer avec une tasse de café parce qu'on ressent moins la faim. Mm-hmm. Donc, on peut commencer par un demi-pamplemousse, en fait, ce qui est citrin ou un fruit qu'on aime pour un peu aussi se mettre en appétit. Ou encore... pour les gens qui disent qu'ils n'ont pas d'appétit le matin, donc quand Guylaine parlait de la restriction calorique à la fin de la journée, qu'on mange moins de calories, bien c'est sûr que si on saute un repas et si on commence en sautant le petit déjeuner, c'est difficile d'arriver à la fin de la journée avec et rencontrer nos besoins. Alors, pour les gens qui n'ont pas d'appétit le matin ou qui se couchent tard et donc qui ressentent moins la faim, souvent les déjeuners liquides ou semi-liquides sont plus faciles à avaler. Donc, je pense à des laits fouettés, je pense à des crèmes de blé, des œufs brouillés, des petites choses comme ça.
Mais ça m'intéresse aussi parce qu'on peut ouvrir ça dans le sens qu'il y a beaucoup de gens, on parle toujours des gens qui sont obèses. Hein? On dit toujours les gens obèses, c'est dangereux pour ci, pour ça. Mais s'il y a des gens, comme vous l'avez dit, Mme Ferland, qui ont commencé à perdre du poids, puis qui ont perdu leur masse musculaire. On a vu tantôt le diagramme que vous nous avez donné.
Ah, quand des j'ai fois, vu la cuisse là, de 75 ans, je me suis dit, ah, maudit, hein? J'arrête de regarder les cuisses.
Vous regardez ce qu'il y a dans l'assiette
ça
avant de regarder la cuisse.
Ça m'a déprimé la cuisse de 75 ans.
Bien alors, tu vois, ça veut dire qu'il y a des gens qui commencent à
faire
du
poids. Ça touche les hommes aussi, hein? Ça touche
les hommes
aussi.
Merci. Merci bien. Je dirais qu'il faut regarder ce que la personne a dans son assiette avant de regarder sa cuisse. Donc, mais
c'est
donc,
ça qui me sauve.
Alors donc, il y a des gens qui perdent du poids. Peut-être qu'il y en a ici qui connaissent des gens qui ont perdu du poids. Puis à ce moment-là, ces gens-là, ma sœur a eu un problème pour gagner du poids. C'est pas facile d'engraisser quand tu as perdu du poids. On s'occupe toujours des gens qui sont gros et qui vont maigrir, mais ceux qui ont besoin de prendre du poids, il faut les aider à stimuler leur appétit.
Alors, soit des gens qui ont besoin de... soit qui doivent en prendre ou qui doivent limiter la perte, tu sais. Alors, juste manger. Donc, à ce moment-là, pour répondre au point que tu apportes, qui est très bon, il faut miser sur des aliments qui apportent plus de calories dans un petit volume. Parce qu'on sait qu'on vient rassasier plus rapidement.
Hein?
Oui,
ouais,
et
ouais.
On atteint la satiété beaucoup plus vite.
Ouais, ouais, ouais.
Les gens, ils ont faim, là. Ils commencent à manger, ils se servent une assiette, puis là, à un moment donné, « Oh, mais moi-en pas trop, parce que non, j'en ai assez. » Et ils commencent à manger, puis à un moment donné, oups, ils ont plus faim. Ils sont beaucoup plus à l'écoute de leurs signaux d'appétit, mm-hmm, de satiété, mm-hmm. Les gens... à un certain âge, et ça vient avec la sagesse, j'imagine. Il y a des jeunes qui devraient les écouter. Et donc, plein d'aliments qui ont beaucoup de calories dans un petit volume. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Voulez-vous des exemples?
Bien, des noix.
Des noix, excellent exemple. Les noix, bien sûr. Les noix, les fruits séchés. Parce qu'évidemment, en enlevant l'eau du fruit, on concentre la calorie.
Et ça, c'est pas trop de sucre?
Non. absolument non. pas. Ah oh, non, non, non. Ça, c'est le dernier. Non, non. Moi, c'est okay. le dernier, mes soucis, la question du sucre. C'est-à-dire que le sucre omniprésent dans les aliments transformés, okay. c'est une problématique. Mais quand on parle d'un aliment de base, comme un fruit séché, inquiétez-vous pas, vous ne ferez pas d'overdose de dattes ou de figues, certainement. Okay. Alors, il n'y a pas de problème. Et donc, les noix, les fruits séchés, et donc tout ce qui est fait avec ça, les gâteaux aux fruits, les pains aux fruits, aux noix, des choses comme ça, c'est beaucoup de calories dans un petit volume. Le fromage, quand même, contient pas mal de calories dans un petit volume. La crème glacée, là, on veut la calorie. Donc, et donc, les gens qui doivent prendre du poids, okay. Ils doivent aller chercher des yogourts de lait entier. D'ailleurs, à Paris, hein, en France, les yogourts écrémés, c'est complètement out parce qu'on ajoute toutes sortes de sucres et d'agents de texture. Parce que la nature a horreur du vide. Hein. Quand on enlève quelque chose, il faut remplacer par autre chose. Si on enlève le gras dans un produit laitier, bien sûr qu'il faut le remplacer par autre chose. Alors, voilà.
Mylène?
Oui, en fait, ça, c'est une chose qu'on voit beaucoup, là. Par exemple, à l'Institut, dès qu'on travaille avec... une chose aussi, surveiller les soupes. Parce que parfois, les soupes sont claires, pas très nourrissantes, et ça occupe un espace précieux dans l'estomac. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que les personnes vont manger leur soupe au complet, mais là, quand va arriver le plat principal avec la bonne source protéique, etc., là, ça risque d'être... Faim.
Madame Ferland, ça fait plaisir que vous parliez de la soupe, parce que pour moi, la soupe, c'est la pire façon de commencer un repas. Les seules soupes, à mon sens, acceptables, c'est ce que j'appelle les soupes-repas que tu prends le midi. Ouais. Mais manger un bol de soupe avant votre repas, comme entrée, puis vous aurez pu faire après. Tout la soupe, fait. C'est faite pour les malades.
Excellent point. Je l'ai pas... je l'ai pas remis un bouillon.
Alors, qu'est-ce que vous faites en entrée, Guy?
Généralement, toujours des légumes. Tout le
des
temps.
Légumes, presque des
tout
salades?
Le temps, des légumes.
Non, mais, des artichauts, des asperges.
Il y a 50, 60 sortes de légumes. en entrée, je ne prends jamais. C'est hyper rare que je vais prendre de la viande. Ça peut arriver que je prenne des poissons froids comme entrée parce qu'il y a des poissons que j'aime beaucoup. Donc, souvent, la veille, j'en fais trop pour être capable d'en manger froid le lendemain. Je passe à de la raie, par exemple, entre autres. Mais pour moi, la soupe, c'est à bannir complètement, sauf les soupes repas le midi. Ça, je trouve, c'est vraiment très utile, très pratique. Mais il n'y a rien qui coupe l'appétit comme une soupe et qui nourrit peu.
Ouais. Et il y a tellement de gens pour qui prendre une soupe aux légumes avec des biscuits soda, c'est un repas. Ce n'est pas un repas. Hein? Soupe aux légumes, vous avez beau mettre quelques carottes et tout ça, là, mais ce n'est pas un repas.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit un repas, une soupe aux légumes?
Rajouter des légumineuses.
Rajouter des haricots, là, comme faire une vraie minestrone, du parmesan.
L'autre chose aussi qu'on va recommander aux gens, c'est parce que souvent, on se rend compte que les personnes vont se décourager face aux quantités. Alors, ce qu'on va privilégier, ce sont des collations, mais des collations très nutritives entre les repas.
Ah, d'accord.
Alors, donc...
L'histoire de 6 petits repas par jour, là.
Oui, exactement. Et ce qui fait qu'elles sentent moins l'obligation de manger là, ces énormes... Enfin, ce qu'elles perçoivent comme des énormes portions. Puis, au terme de la journée, à la fin de la journée, quand on fait le calcul, au fond, il y a plus de calories, effectivement.
Elles sont plus rentrées dans le...
Oui, et aussi, en fait, une chose... c'est sûr, quand les gens sont mobiles et tout ça, on oublie parfois que comment le grand air, comment d'aller s'aérer dehors, ça ouvre l'appétit aussi. Hein. Alors, donc, ça, c'est une chose, quand les gens sont mobiles, d'aller faire une petite marche, de revenir, là, c'est pas
donc,
une mauvaise chose.
Donc, plutôt que faire une marche de digestion, c'est mieux de faire une marche pour apéritive.
On peut faire une marche de digestion aussi, c'est pas mauvais.
Il y a une chose, Mme Ferland, que vous avez touchée tout à l'heure et qui, pour moi, en tout cas, c'est ma conviction profonde. Moi, j'ai l'impression que l'alimentation, c'est sûrement une partie extrêmement importante de ce que vous appelez bien vieillir. Et pour moi, il n'y a pas de secret. Maintenant, le problème, c'est que les gens sont très, surtout depuis 10-15 ans, les gens vont beaucoup selon les modes. Ils vont lire, par exemple, que le brocoli, c'est un antioxydant, puis qu'avec le brocoli, tu n'auras pas le cancer ou tu risques moins de l'avoir. Puis là, ils se mettent à manger du brocoli comme des épais. Tu sais, je dis, C'est pour moi, l'alimentation, puis une saine alimentation, ça commence quand tu as 4 ans, tu as 3, 4 ans, et c'est l'affaire d'une vie. Tu peux pas d'un coup sec parce que tu te mets à manger tel légume.
Découragez pas les gens qui ont jamais cuisiné. Vous avez commencé dans les jupes de votre mère.
Le problème n'est pas là, mais c'est qu'il faut se méfier. Moi, je trouve qu'il faut se méfier comme de la peste de ces espèces de modes où les gens se garochent sur un légume en particulier jusqu'à temps qu'on leur dise, ben c'est vous, on pensait que c'était bon pour ça, mais finalement, c'est pas si bon qu'on pensait. Mangez-en donc moins maintenant, là, tu sais. Parce que, pour moi, l'homme, c'est un être omnivore, donc tu manges tout ce que tu peux manger. Et tu sais, c'est sûr que si t'es pogné juste avec, si tout ce que tu manges d'un bœuf, c'est le steak, ou tout ce que tu manges d'un cochon, c'est un rôti de porc une fois par semaine, ben ça marche pas. Il y a plein d'abats que les... Je veux dire, ben, je suis stupéfait. Ça m'a pris 5 femmes avant d'en trouver une qui mangeait de la langue. Y a-tu un maudit bout? J'ai passé ma vie à chercher une femme qui mange de la langue des rognons. Comment j'ai fini par en trouver une? C'est rare comme la marque de pape.
Mais là, chérie, c'est là. Chérie, c'est là, si vous l'avez avec vous, là. Faites attention. Donc, la variété, pas seulement dans les aliments, mais la variété dans le choix de la pièce qu'on choisit.
Et dans la façon de les préparer, tu sais, les carottes toujours coupées en rondelles, on peut les couper en bâtonnets avec des olives, puis de l'ail. Tu sais, on peut faire du potage, on peut le mettre dans des gâteaux. Alors, il faut... et puis,
parce que ça, les
puis,
gens...
carottes, juste parce que c'est, je vais me défouler, là.
Ah,
tu comprends? Ouais. J'ai dit la cuisine québécoise, c'est une cuisine fade, en général. Puis c'est une cuisine à base de pétates. Et il n'y a pas un maudit pays au monde où les pommes de terre sont aussi mauvaises qu'au Québec. C'est des pommes de terre, ça ne vaut pas 5 cents, les pommes de terre au Québec. Ça ne goûte rien, c'est mal fait, c'est mal cultivé. Moi, je ne comprends pas qu'on mange des pommes de terre à tous les repas, alors que nos pommes de terre sont aussi mauvaises que celles qu'on produit au Canada.
Donc, c'est toujours la saveur qui est votre première question. Le premier critère pour vous en cuisine, c'est ce que ça goûte, la saveur que ça a.
La saveur puis l'apparence. L'apparence aussi, c'est pas
l'apparence, mais la saveur. Vous vous choquez si c'est fade, vous vous choquez si ça goûte pas. Et donc, ça veut dire que ça vient vous chercher personnellement bon. Assez
et
vrai,
je trouve
là.
Que les gens, on n'a pas de discrimination. Quand je regarde souvent les légumes ou les fruits qui sont dans les super, dans les grandes surfaces, baptême, rapportez-les à la gérante ou au gérant, puis dites, écoute, c'est pas mangeable, cette affaire-là. Ou c'est... Écoute, il y a des... Même dans des grandes surfaces de qualité, t'as souvent des fruits qui sont dégueulasses,
ouais.
Mais les gens, ils achètent pareil.
Ouais, ouais, ouais. Madame veut parler?
Je voudrais réagir aux patates.
Ah, voyez donc.
Juste avant de venir ici, là,
ouais.
J'ai cuisiné. Parce bon. Que, comme j'aime faire beaucoup de choses, j'aime pas ça arriver des fois pour avoir rien prêt. Alors, je me prépare des petits repas. Je me suis préparé 10 petits ramequins de pommes de terre, pardon, pour utiliser le beau mot que vous utilisez. Et je varie ça, là. Ce soir, j'ai mis du navet. Un autre moment, je vais mettre épinards. Un autre moment, mais les pommes de terre, là, c'est un aliment délicieux. Moi, les enfants en ont mangé beaucoup. Ils ont aimé ça. Puis, on les apprête de toutes sortes de façons. Mais, et ça, pour moi, là, ici au Québec, là, on en fait des moutettes bonnes, pommes ouais, de terre. Ouais. Puis, ben, ça, c'est votre opinion, mais nous autres, on en mange en masse et on est très contents.
Un débat de pommes de terre.
Vous savez que c'est l'année internationale de
la
pomme de terre.
Vous savez, madame, qu'en Amérique, c'est le seul continent au monde où les gens achètent la pomme de terre. Quelle que soit la variété, ils mangent des pommes de terre, alors que des pommes de terre, il y a des variétés pour faire des purées, il y a des variétés pour faire des frites.
On sait tout ça, là. Bon. On sait tout ça, là. Mais, non, je veux juste vous dire, moi, je vis toute seule.
C'est sûrement le légume le plus maltraité.
J'ai une très grosse famille, puis j'ai eu beaucoup de difficultés, moi. J'ai fait de l'embonpoint un grand bout de temps. Je venais d'une très grosse famille, alors on mangeait... C'est de la grosse nourriture et ça m'a pris beaucoup de temps à arriver à avoir des proportions normales pour moi. Je prenais du poids. Puis c'est Mme Lambert-Lagacé là, qui m'a beaucoup aidée
donc une nutritionniste collègue.
À faire le tri et à bien manger. Mm-hmm. Et je n'ai plus jamais repris de poids après que je suis allée chez Mme Lambert-Lagacé.
Donc, vous avez appris à bien manger.
Oui, je l'ai appris. Puis j'ai beaucoup de plaisir maintenant à préparer des repas, des gâteaux, n'importe quoi que je déguste. Puis j'invite des amis puis j'en donne aussi. Tout s'apprend. Hein?
Oui, bien voilà, c'est pour ça que je lui disais de ne pas faire de discrimination sur le monde. Lui a appris à cuisiner, il avait 8-9 ans. Tu sais, c'est sûr que... Vous cuisinez depuis combien d'années, Guy Fournier? Ouais, c'est ça. Depuis toujours.
67, 68 ans.
Parce que dans le fond, la clé de tout ça, c'est d'avoir du plaisir à cuisiner. Et donc, si on peut avoir de nouvelles idées, puis vous le faites quand vous faites des émissions, autant Hélène que Guy, quand vous faites des émissions de télé, vous aidez les gens à avoir des idées. Mais tout le monde veut comprendre. Et donc, il faut que ce soit simple. Simple et délicieux, est-ce que ça se peut?
Mais moi, je suis convaincue que manger santé, puis manger bon, manger savoureux, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Guylaine a raison, il y a tellement
est-ce
de gens qui
est-ce qu'on peut attendre Mme Laurendeau sur ce qu'elle avait envie de nous dire?
Stimuler l'appétit,
oui,
là?
Vous avez parlé de ça, puis vous n'avez pas eu l'occasion de le... De l'élaborer.
Merci. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Merci, madame. Oui, donc, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus simple qu'on pense, je pense.
De manger santé.
Oui, c'est. Vous savez, les aliments les plus simples, là, je revenais à mon exemple d'une omelette, mais puis je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure, puis après je vais présenter mon petit tableau derrière, c'est que quand on se disait on n'a pas le temps, écoutez, là, combien de temps ça prend un saumon cuit au four? Là, ça prend 3 minutes, 4 minutes, un petit foie de veau poêlé. Il y a tellement de choses qui sont tellement simples à faire, un sandwich... avec un rôti froid, etc., une bonne salade avec des bons ingrédients, c'est vraiment... Et puis, il y a plein de bons aliments dépanneurs qu'on peut avoir. Ça, c'est un autre sujet. Je m'éloigne. Donc,
mais la simplicité est importante.
Pour stimuler l'appétit.
Et pour stimuler l'appétit.
Et donc, merci, Guylaine, parce que tout à l'heure, on dirait que c'est toi qui avais préparé ma petite diapo en arrière parce que tu as repris des points sans savoir ce que tu avais derrière toi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Donc, je n'ai pas repris l'exemple de la soupe, mais vous comprenez que si on ne commence pas la journée avec le café ou le thé parce que ça peut remplir quand c'est pas le temps, ben si ça vous dérange pas, allez-y, continuez de faire vos habitudes, mais c'est quand il y a des problèmes que je soulève ces points-là. Donc, bouger ou sortir, prendre l'air avant le repas, c'est démontrer que de bouger un peu stimule l'appétit. Moi, je dis aller faire un tour au marché public parce que je trouve que c'est tellement coloré, c'est tellement appétissant que ça peut donner le goût. Et on peut acheter dans les marchés publics, même si on nous les présente des fois dans des paniers, demander, écoutez, je n'ai pas besoin de 8 courgettes, j'en veux juste une. Ouais, ou pouvez-vous me faire un mélange? Alors, au lieu d'avoir un panier de je dis 8, j'exagère, mais des fois, il y a 4 courgettes. Alors, ils peuvent vous mettre une botte de radis à la place, puis un concombre, puis vous êtes heureux, vous repartez avec votre petite variété.
Ça, c'est quelque chose que les gens ne font pas suffisamment.
Ah, c'est là
demander. Puis
même au supermarché, quand c'est préemballé, d'abord, voilà, vous pouvez demander d'enlever l'emballage là, pour des questions écologiques, mais aussi quand c'est emballé en paquet 3, puis vous en voulez juste une, vous avez le droit de demander qu'on vous défasse le paquet. Évitez de grignoter entre les repas, à moins que ce soit de vraies bonnes collations nourrissantes. Mais vous savez, le petit plat de bonbons qui est toujours sur la table à café dans le salon ou sur le coin du bureau et qu'on a tendance à aller piger dedans si vous avez la main baladeuse dans le petit plat. Ou, vous savez, les boissons gazeuses, des choses qui ne sont pas intéressantes. Mm-hmm. Entre les repas, bien sûr que ça vous apporte des calories, mais ça ne vous nourrit pas. Se servir de plus petites portions pour ne pas se décourager, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Guylaine. C'est vrai que des fois, c'est décourageant. Et quand on est malade, je sais, j'ai déjà été hospitalisée quand même assez longtemps et je soulevais là, dans le plateau Aladdin là, qui nous apportait à l'hôpital. Et là, je soulevais le couvercle. Oh, j'étais découragée, non seulement de voir ce qu'il y avait dedans, mais de voir, vous savez, la tranche de jambon qui dépasse de l'assiette, puis la sauce qui déborde, puis là, comme t'as pas faim, t'es malade ou t'as pas beaucoup d'appétit, c'est décourageant de voir des grosses assiettes. Alors, de se servir de petites portions, quitte à s'en servir encore, c'est certainement un truc... Et bon, rehausser la saveur des plats. Alors, je trouve qu'on n'a plus d'excuses, Carole, parce que, justement, avec l'accès aux aliments qu'on a, on a accès à plein d'assaisonnements extraordinaires. Alors, que ce soit des épices ou des fines herbes, herbes. Si vous ouvrez votre pot de fines herbes séchées et que ça ne sent plus rien, jetez-les. Hein? C'est pas quelque c'est chose qui se garde indéfiniment parce que c'est un peu... Ça se finit par s'éventrer. Les épices, certainement, durent plus longtemps. Mais j'ai mentionné la fleur d'ail sur ma diapo parce que c'est quelque chose qu'on produit ici au Québec. Il y a beaucoup de producteurs d'ail qui cultivent, qui mettent en pot la fleur d'ail et qui est beaucoup plus
La fleur, c'est vraiment la fleur. Hein?
Oui, tout à fait, la fleur
d'ail. La fleur...
Et pour les gens qui disent... Bon, je pense à mon beau-père là, qui a 81 ans, qui est veuf et qui cuisine avec beaucoup d'ail parce qu'il aime ça. Mais là, il me disait, des fois, j'ai de la difficulté à digérer. Bon, vous connaissez le truc de retirer le germe de l'ail, mm-hmm. surtout à ce temps-ci de l'année, là, quand on est dans les vieilles réserves d'ail de l'automne dernier. C'est sûr que des fois, s'il y a germé, alors il faut
mais
retirer ça.
Et
la fleur d'ail est beaucoup plus digeste et elle donne quand même de la saveur. Je pense aux huiles aromatisées. On peut trouver, écoutez, des huiles extraordinaires, là, pimentées, des huiles au romarin, des huiles de basilic, de citron. Alors, sur un filet de poisson, c'est formidable. Des sauces bien relevées, là, des moutardes, des condiments. Tu sais, quand tu arrives dans la... Il y en a. Donc, je trouve que c'est chouette à avoir au frigo des pestos, des tapenades déjà préparées qu'on a au frigo et qui viennent un peu relever des choses, des plats très, très, très rapidement.
Est-ce que ça répond à vos questions ou est-ce qu'on fait un portrait de vous qui est distordu ou qui n'est pas conforme? Il y a des gens en bas. Comment? Vous trouvez que c'est négatif, hein?
Mais alors, dans quel sens, madame, vous dites ça?
Au sens où j'ai l'impression que vous soulignez tout ce qu'on fait de mal et qu'on ne devrait pas.
OK. Et qu'est-ce que vous diriez qu'on fait de bien et qu'on devrait souligner?
Moi, je pense qu'on fait déjà beaucoup de choses de bien.
Oui.
Je pense aussi qu'il y a les moyens financiers.
Oui, oui.
Je pense qu'on entre dans une époque où ça va coûter de plus en plus cher. Et que vous, les spécialistes, pourriez, par exemple, nous indiquer des voies alternatives pour pouvoir continuer à faire mieux, ce qu'on fait déjà pas si mal, finalement.
OK.
Madame, je ne suis pas en désaccord avec ce que vous dites, mais moi, tant que je vais avoir des McDonald's puis des Tim Hortons, plein de monde, je vais me dire que là, on a des problèmes.
Mais nous aussi, on les voit.
Ouais. Oui, je le sais. Mais c'est qu'il y a quelqu'un qui y va. Il y a des gens qui passent leur temps là. Sinon, il y en aurait moins.
Ils ne sont peut-être pas dans cette salle-ci.
Peut-être que ils ne sont pas ici et nous ne sommes pas là pour entendre dire qu'on ne
devrait
pas y aller.
Attendez, je n'ai pas entendu.
On sait très bien que ce ne sont pas des choix. C'est comme si, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous portez de très bas. En tout cas,
mais madame, autres, pour vous répondre, peut-être que ce que je répondrai à vous spontanément et je vous demanderai de réagir, c'est quand on est dans les généralités, c'est évident qu'on est dans les injustices personnelles. Ça, c'est clair. Si vous trouvez qu'on a été négatif, on va faire un petit exercice positif. Dans les prochaines... Non, mais je reçois son commentaire. On est en train de dire les gens ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mieux manger? Parce que c'est vrai que si on dit pour mieux, c'est parce qu'on veut aller de moins à plus. Donc, pour mieux manger, pour mieux vieillir, on a regardé ce qui n'était pas correct. Essayons de faire l'exercice ensemble pour lui répondre sur ce qu'on a amélioré et ce qu'on fait de bien qui va nous aider à mieux vieillir, qu'on devrait conserver.
Bon, il y a des choses considérables qui sont améliorées au Québec au niveau de l'alimentation. Ça, c'est évident.
On a plus
par exemple, maintenant, même dans des toute petite ville, tu as des grandes surfaces où il y a quand même à peu près tous les légumes que tu peux souhaiter et à peu près tous les fruits que tu peux souhaiter. Ça là-dessus, il y a une amélioration énorme. Je pense que les gens sont également beaucoup plus conscients de la nécessité de bien s'alimenter.
Ouais.
Mais à mon point de vue, il reste également une espèce de paresse que j'ai du mal à m'expliquer. J'ai du mal à m'expliquer, parce que je reviens là-dessus, qu'on puisse aller chez Tim Hortons de façon régulière, qu'on puisse aller au McDonald's de façon régulière, où tu manges de la cochonnerie. Moi, j'ai bien de la misère à comprendre qu'on soit capable d'aller là sans sourciller. Pour moi, d'aller chez McDonald's, c'est comme un fumeur qui fumerait en se disant « il n'y a pas de problème de fumer ». Tu comprends?
Bon,
j'ai rien contre les gens qui vont chez McDonald's une fois de temps en temps avec les enfants, mais je peux te dire une chose qui a l'air étrange, Je suis entré dans toute ma vie, puis j'ai 76 ans, je suis entré une fois dans un McDonald's à Los Angeles parce que j'étais pogné avec des gens qui allaient là. J'étais jamais entré de ma vie, puis, je suis jamais retourné.
C'était pas bon?
Et je suis arrêté une fois dans un Tim Hortons entre Toronto et Montréal, parce que l'avion, au lieu d'atterrir à Montréal, avait atterri à Toronto. Et en pleine nuit, l'autobus, parce qu'on est revenu à Montréal dans l'autobus, je me suis réveillé, puis je me suis retrouvé dans la Tim Hortons. J'ai commandé une soupe, j'en ai mangé une bouchée, puis j'ai dit de la merde. Bon. Alors, Madame, c'est possible, vous me ferez pas, il y a personne qui va me faire à croire que dépenser son argent chez Tim Hortons, puis dans tous ces endroits-là, que c'est bien s'alimenter. Il n'y a personne qui va me faire à croire ça. Il n'y a personne qui va faire à croire que tu économises également en allant là. Oui,
oui. Madame, je vais prendre votre intervention.
Vous avez mentionné tout à l'heure que vous alliez peut-être nous parler d'une étude sur l'importance de l'humeur dans les repas, qu'il y avait eu des études de la convivialité. Je trouve ça intéressant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus?
Oui, en fait, par rapport à la convivialité, ça, je dirais que les travaux remontent à il y a un petit peu plus de temps, un dénommé De Castro qui a beaucoup publié sur la question. Et lui, il s'est intéressé au comportement. C'est vraiment un spécialiste du comportement alimentaire. Et il s'est intéressé à la question de la convivialité, mais à tous les âges. Mais aussi, évidemment, il s'est intéressé aux personnes de 60 ans et plus. Et en fait, il a démontré que lorsque les gens consomment un repas en compagnie, que la prise alimentaire est plus grande. Et c'est sûr que chez des personnes plus jeunes, bon, l'augmentation de la prise alimentaire n'est pas nécessairement souhaitable. Elle peut l'être aussi, elle peut pas avoir de conséquences. Mais chez des personnes, disons, j'insiste sur le fait là, qu'à partir de 75 ans, on voit davantage le problème de cette perte d'appétit. On réussissait en fait d'augmenter les apports de presque 20%, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, c'est sûr, ces études-là sont toujours limitées dans le temps. Donc, est-ce que les choses se maintiennent? J'étais heureuse d'entendre Madame tantôt dire que, bon, elle a réappris avec Madame Lambert-Lagacé à cuisiner et à organiser les portions pour que ce soit plus satisfaisant pour elle. Alors, c'est sûr qu'il y a cette question de perdurer là, dans le temps, ça, c'est toujours une préoccupation. Nous, dans le cas de l'humeur, en fait, c'est une étude qui a été réalisée dans un hôpital, à l'Institut de gériatrie, pour ne pas le nommer, et c'était dans une unité de rééducation, de réadaptation, donc des gens qui avaient subi soit des AVC ou des fractures de hanche et qui étaient là pour faire de la physiothérapie, ergothérapie. Et en fait, on a étudié les gens pendant toute la durée de l'hospitalisation parce que, bon, on a fait référence tantôt à la nourriture dans les hôpitaux. Elle a très mauvaise réputation. en fait, il y a même dans la littérature scientifique, on entend parfois que les gens peuvent se dénutrir au cours de l'hospitalisation. Donc, imagine. Tellement que c'est mauvais et que bon, etc. Alors, nous, on voulait voir, et évidemment, la direction de l'hôpital était intéressée aussi de savoir est-ce que ce qu'on offre à nos patients, est-ce qu'on les rend davantage malades avec la nourriture qu'on leur offre? Donc, on a fait cette étude en fait, on a étudié plein d'aspects. Il y avait, bon, évidemment, la qualité de la nourriture, il y avait la température, est-ce que ça arrivait à l'heure, est-ce que... on a étudié toute une panoplie de paramètres, enfin, qu'on est encore en train d'analyser. Mais je peux vous dire que l'humeur, le fait... et puis, bon, instinctivement, c'est sûr qu'on aurait pu y penser, mais il reste qu'il n'y a jamais personne qui l'avait véritablement démontré. que lorsque l'anxiété en particulier est vraiment ressortie dans nos analyses statistiques comme étant un facteur qui associé à des apports alimentaires plus faibles. Ah, oui. Alors, et ça, ça se poursuivait sur 3 semaines, un minimum de 3 semaines. Donc, on ne parle pas uniquement là, d'une photographie, d'une journée, d'un repas, mais c'était vraiment tous les jours, 2 fois par jour, le midi et le soir, on demandait aux gens comment ils avaient une échelle qu'ils devaient, avec laquelle ils devaient se prononcer par rapport à leur humeur, à différents aspects de leur humeur. Et, entre autres, l'anxiété est vraiment ressortie. Et inversement, bon, le fait de sentiment de bien-être est ressorti de manière favorable.
Autrement alors, dit, quand on est de bonne humeur, on mange mieux. Quand on est déprimé, on mange moins. Je vous résume grossièrement.
Quand tu te couches de bonne humeur, tu dors mieux aussi.
Mais c'est ça. Si on regarde du côté positif, madame?
Je veux juste faire un commentaire. On parle de bien s'alimenter. La population est vieillissante, puis ils ont de la difficulté. Moi, ce que je déplore, c'est la disparition des épiceries de quartier. Gens ont de la difficulté à se déplacer et même perdre leur permis de conduire. Là, comment ils font pour aller chercher les aliments? Ils sont réduits à aller au dépanneur, puis le dépanneur, ben, vous savez quel choix qu'il y a là. Alors, à ce moment-là, c'est très difficile de bien s'alimenter.
Ouais, c'est l'effet pervers des grands centres d'achat, des gros magasins qui vendent soi-disant moins cher. C'est vrai que la disparition des petites épiceries, c'est un facteur, Hélène.
Il y a une étude qui a été faite par la Santé publique à Montréal aussi, où ils ont fait une étude sur les approvisionnements dans différents quartiers de Montréal et comment c'est difficile dans certains quartiers de s'approvisionner et d'avoir accès à des aliments de qualité et à la fraîcheur, donc des fruits, des légumes frais. C'est sûr que dans un dépanneur, c'est pas ça qu'on retrouve. Alors c'était et ça allait beaucoup avec les quartiers défavorisés, malheureusement. Donc le servicieux de la pauvreté. Hein. Donc, ces gens-là n'avaient pas accès à des supermarchés, à des épiceries de quartier où on tenait une variété de fruits et légumes, des sangs, des viandes, puis du poisson qui n'est pas ammoniaqué, qui est frais, etc. Donc, c'est un très bon point que vous apportez, madame. À ce moment-là, c'est de plus en plus complexe parce qu'il faut prévoir quand on va faire les courses, donc pour pouvoir stocker, congeler, mettre en conserve des choses. Ouais. Et il faut donc cuisiner. Et ça, on sait qu'il y a une perte de compétences culinaires, là.
Je pense qu'il y a des exemples, madame, juste pour abonder dans le sens d'Hélène. Je pense à une ville comme Paris, où la ville de Paris subventionne des petits commerçants qui font des marchés 2 fois par semaine dans tous les arrondissements, puis dans tous les coins des arrondissements. Ça, je pense honnêtement que c'est très dommage qu'une ville comme Montréal, particulièrement, soit réduite à peu près uniquement à des grandes surfaces ou à 2 grands marchés, je pense à Jean Talon et à Atwater, où on vend plus cher qu'ailleurs de toute façon. Ouais. Alors, c'est ça, ça ne nous aide pas beaucoup.
Mais moi, j'aurais une solution peut-être, je ne sais pas pour vous, puis je ne sais pas si c'est dans tous les quartiers, mais il y a Équiterre qui propose les paniers pour les gens.
Oui, mais c'est très limité encore. Ce
n'est pas dans tous les quartiers.
C'est un bon point, puis
okay.
Le magasin, je ne sais pas si c'est IGA ou Prodigo, en tout cas, les deux, ils vont une fois semaine, ils se rendent, l'autobus se rend là, ils amènent les gens en autobus.
Ah oui, my.
Ils font leur marché, ils les ramènent. C'est un service qui est gratuit.
Ah ben c'est formidable.
C'est des gens autonomes, mais c'est des gens âgés. Là.
Bon, mais il faudrait faire un article là-dessus, que ça se sache. D'accord.
Oui, plusieurs résidences qui occupent. Carole, on a une autre question. Je suggère qu'on prenne 2 dernières questions.
Oui, d'accord.
Parce que le temps passe. Très bien. C'est passionnant, mais je pense qu'on va devoir.
Merci. Oui, bonsoir. Malgré qu'on aime manger sainement, le fait de vivre en solo, je pense, se fait très, très difficile, surtout pour les personnes de notre âge.
Voulez-vous des trucs? Voulez-vous qu'on demande à nos invités des trucs?
Je pense que vous n'avez pas touché beaucoup à ça, ce sujet-là. Entre autres, pour habiter dans des lieux plutôt exigus, parce que moi, à mon avis, je m'adresse plus particulièrement à M. Fournier. Même tout en voulant bien manger, toujours sainement, ouais. Eh ben, il faut d'abord avoir envie de le faire. Ouais. En vivant solo, c'est pas nécessairement acquis. Il faut avoir la place, le comptoir, et puis, en fait, les aliments et tout. Donc ça, je pense que vous n'avez pas touché beaucoup à ce sujet-là.
C'est une vraie question, parce que quand on est plus âgé, c'est vrai qu'on vit souvent ça.
Oui, alors la convivialité, là, oups, ouais, grand point d'interrogation. Je ne sais pas si vous me suivez.
C'est pour ça que Mme Ferland disait tout à l'heure, inviter quelqu'un. Et peut-être qu'il faut être proactif et inviter des gens plutôt qu'attendre d'être invité, peut-être. Ouais. Mais d'autres, est-ce qu'on pourrait, si vous avez des trucs, vous, dans la... Je me suis déjà plainte de ça à la télé, madame. Puis il y a quelqu'un qui m'a envoyé un livre qui existe qui s'appelait « Petit plat en solo ». Je vais dire à Hélène qu'elle devrait en faire un pour le Québec parce que c'est un livre français. Je ne pense pas qu'il se trouve ici. Oui. Si jamais vous avez Internet, vous pouvez essayer de le voir, « Petit plat en solo ». Mais c'est très vrai ce qu'elle dit.
Où madame a parfaitement raison. C'est sûr que manger... Un repas, c'est en soi un geste de société. C'est évident que quand tu es seul, ça demande un effort beaucoup plus considérable. C'est sûr que, puis je ne me cite pas un exemple, là, parce que ça arrive peut-être une fois par deux semaines où je suis seul, donc je vais me faire le même repas que si on était deux ou si on était trois. Mais c'est sûr que quand des personnes qui vivent seules jour après jour, il faut que tu te donnes vraiment un coup de pied dans le derrière. Pour avoir une alimentation variée et saine. Ça, c'est sûr que c'est compliqué.
Deux choses qui me viennent spontanément à l'esprit. D'abord, pour vous rassurer, vous savez, bien manger, c'est pas seulement l'affaire d'un repas. Hein? Mm. C'est-à-dire que si un repas, là, tu sais, ça nous tente pas une journée, ça nous arrive tous. Puis que, tu sais, on a coupé les coins ronds, là, hein? On mourra pas, là, d'un infarctus le lendemain nécessairement, là. Donc, il faut aussi un peu dédramatiser puis regarder globalement. Quand on parle de bien manger, c'est sur une semaine, là. Quand vous prenez une semaine, parce que, hein, y a les samedis, dimanches, on se nourrit différemment des fois. Peut-être quand on est à la retraite, j'ai hâte à ce jour-là, je sais pas ce que c'est, mais, peut-être que les jours se ressemblent davantage, mais disons que, il faut pas trop s'énerver, là. Si un repas, c'est pas selon les règles de l'art et les quatre groupes du guide alimentaire.
Non, mais des
c'est
trucs,
pas grave. Des trucs. Alors, des trucs quand on est solo. D'abord, il se vend. Vous avez raison que quand on a un endroit plus restreint où on n'a pas accès à.
Le garde-manger, bon, c'est ça.
Oui, tu sais, puis bon, c'est petit, notre petite cuisine. Voilà. Bon. Alors, dans les supermarchés, quand même, on vend de plus en plus des plus petits formats, ce qui nous permet d'avoir une plus grande variété, de ne pas être pris avec le format Costco, là, hein, le galon pour le mois. Et c'est donc de faire ce que j'appelle de la congélation intelligente. C'est-à-dire que c'est pas, je préfère manger frais, mais quand même, ça peut être une solution que de cuisiner une fois de temps en temps, puis d'avoir des petites portions déjà congelées prêtes de sauce à spaghetti, de pâté au poulet, de n'importe quoi. Coquille Saint-Jacques, je ne sais pas ce que vous aimez. Donc, ça, c'est une autre solution. Donc, les petits formats.
Tu en fais une fois, puis tu congèles le reste.
Oui, et puis quand tu parlais, le titre de s'inviter, bien, si on n'a pas l'énergie ou n'a pas envie d'inviter quelqu'un à manger chez nous, on peut s'inviter à une copine à aller manger au petit restaurant du coin aussi, là, ou à aller sortir au centre d'achat, puis d'aller, je ne sais pas, mais en profiter pour manger ensemble. Je pense que c'est de manger ensemble, de briser cet isolement-là. C'est vrai que c'est plate manger tout seul, mais moi, je vois manger comme un investissement aussi. C'est-à-dire que quand vous mangez, quand vous vous nourrissez bien, ben, c'est un investissement. Guylaine nous l'a démontré que ça nous aide
à mieux vieillir.
Mm-hmm. Et je trouve que les effets bénéfiques, ce n'est pas seulement sur la prévention de trucs lointains ou de cancers ou de gros maux qui font peur. C'est sur l'énergie que ça nous donne au quotidien. Que de manger et de prendre plaisir à manger, ça nous donne plus d'énergie, on est plus de bonne humeur et que c'est un plaisir contagieux. Hein? Alors, des fois, ça ne nous tente pas, mais quand on se force un peu, regardons, tu sais, finalement, ce n'était pas si désagréable. Puis... voilà.
C'est une habitude à adopter, finalement. La dernière question pour ce soir.
Juste un autre point qui s'adresse plutôt un commentaire suite à ce commentaire venant de M. Fournier. Je me demande quand on aura assez, nous, en tant que Québécois, là, de guts, là, n'est-ce pas, pour quand on va à l'épicerie puis qu'on voit les pêches, les prunes, tout ça, hors saison, qui se vend tant le kilo. Moi, je le fais, puis ça fait pas si longtemps, ça fait un certain nombre d'années, mais je pense qu'on devrait tous s'y mettre, là, vraiment, puis mentionner à quelque épicerie que ce soit, tout simplement, c'est un péché de vendre ça. Et puis moi, acheter pour jeter, ça ne m'intéresse pas du tout.
Non, mais je pense aussi, madame, où vous avez beaucoup raison, c'est quand même, ça ne demande pas d'effort de manger les fruits et les légumes plus tôt en saison que d'acheter. Écoutez, là, nommez-moi un endroit où tu peux, par exemple, même en pleine saison, dans un supermarché, trouver des pêches qui sont mûres.
Non.
Je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Ça existe à peu près plus. Mais où on n'a pas, où je pense qu'on manque, c'est comme vous dites, d'avoir le courage de dire à l'épicier, écoutez, là, vous avez ça à tablette, là, ça n'a aucun bon sens. Ou arrêtez d'acheter des choses qui ne sont pas mangeables.
Voilà.
Tu sais, des asperges au mois de janvier, ça n'a pas d'allure. Tu comprends? Tu peux bien en acheter, mais ça coûte rien. C'est comme si tu mangeais du bois.
C'est qu'on a perdu le sens des saisons parce que, étant donné, avec la mondialisation et la disponibilité de ces aliments-là, à l'année, les fraises qui viennent du Mexique, du Chili, de la Californie, on connaît ça, les fraises au Québec, on a de très bonnes fraises et on connaît la saison des fraises. Et c'est peut-être le temps de se bourrer la fraise, justement, durant cette saison-là et d'en profiter. C'est un bon point, madame. Mais on a un devoir, je pense, comme consommateur, que ce soit à l'épicerie ou au restaurant. François Scalaire disait ça, on a un devoir de oui, tout, ça dépend
demander,
de la façon dont on le dit, mais certainement c'est que c'est légitime que de donner...
Et madame, juste pour ajouter à ce que dit Hélène, et quand, de grâce, quand vous allez manger dans un restaurant, puis qu'après, on vous demande si c'était bon, si c'est pas bon, dites donc si c'était pas bon, tu comprends? Parce que ça m'insulte, parce que si tu regardes les commentaires, le chef ou la... Les personnes vont dire, puis c'était bon, madame, ou c'était bon, monsieur, puis ils disent toujours oui, même quand c'était pas mangeable. Dites-le quand c'est pas mangeable. Ça va faire des meilleurs restaurateurs.
Madame?
Oui, ma question, c'est pour Madame Ferland ou bien pour la diététiste. C'est maintenant, nous sommes dans l'ère de écolo, où il faut bannir les insecticides et même certains engrais. Je me demande pour votre opinion sur les aliments organiques. Est-ce que c'est mieux d'aller dans les magasins spécialisés où les fruits, les légumes coûtent deux, des fois trois fois plus cher que d'aller à IGA ou chez le métro?
Merci de votre question. Qui répond?
Peux-tu y aller?
Moi, je peux vous dire que j'en achète pas nécessairement. Je pense que c'est... on n'a pas encore les moyens véritablement... L'argument qu'on nous sert toujours, c'est que bon, les modes de culture aujourd'hui, la valeur nutritive n'est pas la même. Quand on m'offre cet argument-là, je dis toujours aux gens, mais avez-vous quelque chose à me montrer là, qui va me convaincre que la tomate d'aujourd'hui, quand on sait que de toute façon, si vous cultivez une même variété de tomates dans des jardins différents, au jardin botanique versus dans des jardins communautaires, qu'elles n'auront pas la même valeur nutritive parce que pour beaucoup de minéraux, en fait, ce qu'on retrouve dans le fruit ou dans le légume, c'est très... ça dépend de ce qu'il y a dans la terre. Donc, c'est le cas pour le sélénium, par exemple. C'est le cas pour une très grande majorité de minéraux. Alors, donc, déjà, il y a une variabilité importante au niveau de la valeur nutritive. Si on regarde au niveau des vitamines, des micronutriments en particulier, vitamines et minéraux. Pour ce qui est des insecticides, en fait, moi, j'avoue que on est toujours... À ce stade-ci, j'estime qu'on n'a pas encore les moyens de on n'a pas fait la preuve. En tout cas, moi, je ne suis pas consciente d'études qui m'a convaincue d'acheter organique nécessairement. C'est certain que, quant à la campagne, je cultive mes propres petites choses. C'est toujours agréable, toujours plus agréable de manger nos propres choses. Mais de manière générale, Je ne pense pas qu'on ait actuellement les moyens de faire la démonstration que ces aliments-là sont nécessairement meilleurs pour la santé. Je pense que de les consommer, déjà de les consommer, c'est déjà beaucoup.
Hélène, est-ce que vous êtes à peu près du même avis?
Moi, j'en achète, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe où. Moi, je pense que les aliments biologiques sont certainement bons pour d'abord la santé des producteurs qui n'ont pas à faire des épandages, et c'est déjà un gros pas. J'ai fait des tournages déjà chez des producteurs dans des vergers biologiques où les producteurs eux-mêmes qui faisaient ces épandages-là nous disaient à quel point ils avaient toutes sortes de problèmes de santé avant et maintenant. Des problèmes de peau, des problèmes respiratoires, etc. En fait. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que pour la santé de l'environnement et la santé des producteurs, c'est certainement un grand pas. Maintenant, je pense que, et on a déjà eu des tables rondes avec, même les gens d'Équiterre vont vous dire que d'abord, le message que moi, auquel je crois, c'est d'abord de consommer davantage localement. Voilà. Et que entre une pomme traditionnelle cultivée au Québec et une pomme biologique qui vient de l'État de Washington, je pense que la pomme d'ici est certainement un bon investissement. Et je suis tout à fait d'accord avec Guylaine, c'est-à-dire que les études ne sont pas concluantes unilatéralement. C'est-à-dire qu'il y a des études qui vont dire ben, dans certains cas, on a analysé tels fruits et il y avait plus de tels minéraux et moins de ceux-là, et dans d'autres études. Alors, c'est très variable. Mais je pense que j'aime encourager une agriculture intelligente et responsable. Par exemple, les fabricants de Roquefort, on va rester au Québec, Maurice Dufour, qui fait le fromage Migneron dans Charlevoix, qui a fait creuser dans sa montagne derrière chez lui, si vous êtes déjà allé à Baie-Saint-Paul, des caves pour affiner ses fromages, puis il est flatte à tous les jours, puis il retourne, puis il les aime, comprenez-vous. Il me dit, je ne peux pas faire un fromage biologique parce que j'ai 6 fermes laitières qui m'approvisionnent et je ne peux pas avoir 6 fermes. On n'a pas assez de producteurs biologiques de lait dans la région. Donc, il me dit, mais ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas un soin à bien faire les choses. Alors, le Roquefort, en France, il n'est pas un fromage biologique. Il est fabriqué depuis des millénaires avec un respect de la terre, des animaux, des producteurs, des gens. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que pas biologique, non, à tout prix, ni à n'importe quel prix. Et quand je vois des grosses multinationales qui font du bio at large, on est en mesure, des fois, de se questionner sur aussi l'étiquetage et les inspections de ces aliments-là. Est-ce qu'ils sont vraiment conformes à cette réglementation-là? Alors, ça ne règle pas tout d'acheter du biologique. C'est une longue réponse, hein? Ben, c'est un gros sujet qui est très, très d'actualité.
Petite réponse. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de racket dans la question des aliments biologiques. Donc, c'est plus payant. Mais je suis d'accord qu'il n'y a rien qui démontre que ça soit vraiment meilleur pour la santé. Par contre, j'aimerais ajouter une petite chose. Il y a une dizaine d'années, moi, j'ai un petit verger avec des pommes, évidemment, plusieurs variétés de pommes. Et il y a une dizaine d'années, la femme avec qui je suis m'a dit « On devrait arrêter de faire des arrosages où il y a des produits chimiques. » Ça réduit les arrosages du verger. Au lieu d'avoir à peu près 20 ou 22 arrosages par été, on en a à peu près 8 ou 9. Donc, il n'y a plus... Le fermier qui arrose mon verger, il n'y a plus d'arrosage chimique. J'avoue, parce que j'étais très sceptique sur les résultats, j'avoue que les pommes sont meilleur. Par contre, il y a un drawback, pour parler bien français, c'est que les pommes sont moins belles. Il y a de la tavelure dessus, etc. Donc, je pense aussi qu'il faut qu'on soit prêt à accepter que les fruits ne soient pas tous exactement de la même grandeur, puis tous rouges, rouges tout le tour, puis pas de taches dessus. Mais je suis obligé d'admettre, madame, là, que depuis que mon verger est plus arrosé avec des produits chimiques, que les pommes ont meilleur goût.
La dernière question dans la salle?
Oui, c'est...
Je viens de l'Argentine et ça me manque terriblement les huîtres de la Patagonie, les huîtres sauvages de la Patagonie. Où est-ce qu'on peut
en trouver?
On va trouver, monsieur, vous venez d'Argentine, je suis très heureux que vous ayez encore des huîtres sauvages, mais des huîtres sauvages, il n'y en a à peu près plus nulle part. Mais tout ce que j'espère, c'est que nos producteurs d'huîtres finissent par être aussi bons que les producteurs d'huîtres de France, parce qu'en France, les huîtres sont toutes des huîtres de culture, mais sont vraiment très bonnes, alors que nos huîtres sont
On en a des bonnes moyennes. Oh, ben là, tu lui commences la chicane, là.
Allez, la dernière question.
M'excuse, là. Ben,
c'est pas le pelon, mais...
On a non, les pelons sont loin d'être les meilleurs, de toute façon. Mais il faut penser, monsieur, juste pour répondre à votre question, que je pense que dans quelques années, nos producteurs d'huîtres feront, avec l'expérience, de meilleures huîtres. Mais des huîtres sauvages,
une dernière question.
Allez-y, monsieur.
On a vu avec la photo de la jambe de la personne âgée qui avait la perte musculaire.
Ouais.
Et on a remarqué aussi la perte osseuse.
Oui.
Et je me posais la question suivante. Le guide canadien de l'alimentation nous parlait de 1500 mg de calcium, je crois, par jour, ce qui correspond à près de 4 à 5 verres de lait par jour, ce qui est énorme. Comment est-ce qu'une personne normale peut faire pour arriver à consommer 1500 mg de calcium par jour?
C'est difficile.
Donc, le supplément est presque inévitable. Hein?
En fait...
la multivitamine,
c'est 1200.
En fait,
parce que c'est 1200, les recommandations.
C'est 1200, oui. C'est 1200.
Vous venez de sauver 300 mg.
Oui, une portion. Oui. Mais même 1200, il faut quand même surveiller ses affaires.
Trois portions de verre. Alors moi, là, je trouve qu'ici, c'est intéressant ce que vous apportez. Les produits laitiers enrichis en calcium sont un bon placement quand on veut donner un petit coup de pouce, parce qu'une tasse de lait, c'est à peu près 300, selon qui est écrémé ou pas, mais en tout cas, entre 300, 320 mg de calcium, 315. Et quand on prend les laits enrichis en calcium, ben c'est 30 % de plus de calcium ou 33 %. Donc, on est à 400 quelques milligrammes de calcium dans un verre de lait. Donc, c'est dans la petite demi-tasse de lait dans le café, dans le petit lait dans le bol de céréales, mais ça finit par s'additionner. Alors, quand on dit 1200 mg, si vous prenez trois portions de produits laitiers, un à chaque repas ou en collation ou avant de vous coucher quand vous voudrez, si c'est du lait enrichi en calcium, on est à 1200. Si c'est du lait ordinaire, puis on prend juste deux portions, on est à 600 quelques. Et puis là, ben, on prend un morceau de fromage, on prend d'autres sources de calcium, des amandes, du tofu avec calcium, etc. Et donc, on peut arriver.
On peut assniffer un peu, peut-être.
L'hiver
Est-ce
au Québec.
Est-ce que je prends une dernière question, Dominique?
Bien, écoutez, je ne voudrais pas abuser non plus du public. Si jamais il y en a qui veulent quitter...
Non, mais madame, allez-y.
Oui, petite question encore. Est-ce que vous êtes d'accord?
Concernant les suppléments, si on est sûr d'avoir une diète qui est basée sur le guide alimentaire, à ce moment-là, est-ce qu'on devrait continuer de prendre nos fameuses comprimés de calcium que le médecin nous recommande pour éviter l'ostéoporose, là, deux par jour? Alors, est-ce que c'est un excès de prendre ça?
Moi, je pense que si vous avez une alimentation qui s'approche du guide alimentaire canadien, le seul supplément est celui de vitamine D.
Oui.
Et pour les raisons là, qu'on évoquait tantôt, qu'on ne peut pas la synthétiser, cette vitamine-là. Mais de toute façon, je pense que bon, c'est une question de voir si au niveau des portions par rapport au calcium, vous pensez que vous comblez les besoins. Il n'y a aucune raison de prendre des suppléments. Les suppléments, ils sont là pour suppléer.
Mais Mme Ferland, il n'y a pas moyen de parler à nos médecins qui prescrivent des doses de calcium éhontées à peu près à toutes les femmes à partir de l'âge de 50 ans. Moi, je trouve ça scandaleux.
Oui, bien, en fait, c'est sûr que les médecins, souvent, c'est une façon rapide de régler le problème. Vous avez des médecins qui s'intéressent aux aliments, mais vous en avez d'autres qui s'intéressent moins aux aliments. Et donc, c'est certain que c'est une façon rapide de régler le problème. Vous dites, bon, ben là, alors, je pense que... mais ce qui, moi, me réjouit, c'est de voir, au fond, que les gens, très souvent, sont bien plus informés que les médecins. Que leur médecin en matière de nutrition.
Ce qui est assez facile.
Mais c'est quand même le cas. Hein. Et puis, en fait, moi, je vous encourage de vous faire confiance dans votre jugement, parce que honnêtement, et de refuser ce genre de choses, de supplémentation automatique.
Ou de questionner, tout simplement.
Oui,
si vous voulez savoir ce que ça vaut un médecin, pour renseigner sur l'alimentation, faites juste observer la plupart des médecins, la façon dont eux s'alimentent. Et vous allez voir qu'avant de prendre conseil des médecins,
j'espère
vous devriez y penser.
J'espère qu'il n'y a pas de médecin dans la salle. Hein? Ce serait gênant. Hélène Laurando, Guy Fournier, Guylaine Ferland, merci beaucoup d'avoir partagé ce que
merci vous
savez.
Merci à vous d'être restés. Merci.
Merci à vous.
Vous avez été bien patient.
Quand je dis qu'Hélène est une pédagogue dans l'âme, elle vous a préparé une feuille avec des références. Si jamais ça vous intéresse, il y en a une pile là. Venez vous en chercher une. Si vous voulez participer aux recherches de Mme Ferland, je prends les appels. Merci beaucoup de votre présence. Et à la semaine prochaine pour une autre séance, conférence avec Régent Hébert, Jacques Languirand et Janine Suteau, si vous voulez bien être là.
Avant que vous quittiez, maintenant que je vous ai vu toutes, je voudrais vous dire que j'élargis mon champ de recherche à toutes les femmes de 77 ans.
C'est moi, je vais prendre les...